Nous sommes mardi, il est 21h et c'est l'heure du dojo bar.
Bar!
Voilà. Bonsoir à tous, pas bonsoir Méduse, puisque malheureusement Méduse n'est pas encore disponible. J'espère qu'il pourra venir en cours d'émission, mais même lui il n'était pas certain. Et donc je veux dire bonsoir à nos merveilleux invités qui sont venus me dépanner un petit peu au déboté, parce que sinon cette émission aurait été un très long monologue. Donc ce soir je reçois Kaliken de DS in Paris.
Toujours là.
Toujours là, qui vient faire un petit coucou de temps en temps.
Voilà.
Et Guizeouch.
Guizeouch. Voilà. C'est comme ça que tu dis.
Ouais, c'est comme ça que je dis Guizeouch.
Plus simple.
L'homme Pikmin 3, puisque j'ai pas d'autres références.
L'homme
qui s'occupe du dojo hebdo toutes les semaines depuis plus de 2 ans maintenant. Pratiquement 2 ans.
Bientôt 2 ans, ouais.
Bientôt 2 ans, on va fêter les 2 ans du dojo hebdo. Avec talent et.
Merci.
Et perspicacité.
Ouais, j'essaye.
Voilà, ça fait partie des rendez-vous un petit peu incontournables dojo, c'est classe. Donc ce soir nous allons parler dans un premier temps du premier DLC de Mario Kart 8, puisqu'il est sorti la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, début de semaine dernière.
Pas fin de semaine dernière,
fin de
non,
semaine
vendredi.
Dernière, je sais pas,
ouais,
j'ai
voilà,
plus
ouais,
la notion du temps.
Jeudi je crois.
Jeudi ou vendredi, oui, voilà.
Donc il est disponible, alors je sais plus si c'était une sortie mondiale d'ailleurs, ou une sortie ou si les Américains l'ont eu un petit peu avant nous.
Je crois pas, il me semble que c'était une sortie mondiale.
Il me semble aussi que c'était une sortie mondiale, mais je suis pas... Voilà. Donc on va discuter un petit peu de ce premier DLC, est-ce que c'est bien, est-ce que ça relance l'intérêt du jeu, voilà, est-ce que il faut l'acheter, parce que bon, c'est quand même un DLC, donc sur le principe c'est quand même un peu problématique on va dire. Et ensuite, pour fêter la sortie, enfin l'annonce de la sortie de The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, eh bien on va parler un petit peu de Majora's Mask. Je sais pas exactement comment on va tourner ça encore, on verra ça je pense au niveau des pendant les pauses musicales, parce qu'on a il y aurait tellement de choses à dire sur ce jeu, on pourrait passer quasiment 20 heures à en parler. Donc voilà, on a quelques sujets sur la table, je sais pas si on fera tout, je sais pas si on aura le temps de parler de tout ce qu'on a envie de parler, mais bon, quoi qu'il arrive, on aura de toute façon le temps de reparler de Majora's Mask pour la sortie du remake 3DS, en l'occurrence. Je pense qu'on fera même une émission spéciale, là on fait vraiment un petit apéritif, mais je pense qu'on fera un truc un petit peu plus complet plus tard. Mais voilà, on va commencer, comme d'habitude, par notre traditionnel tour de table de l'actu, qui
oui.
est malheureusement très court aussi. Ouais. Tout le monde se marre parce qu'en fait personne n'a rien préparé.
Bon, allez, on est venu un petit peu à l'arrache. En fait.
Ouais,
tout à fait. On a vu la lumière, on est entré.
Tout à fait. Le bar est un petit peu. Voilà, c'est une émission un petit peu.
Le bar est désert. Voilà.
C'est-à-dire que voilà, il y avait de la lumière, ça avait l'air sympa. Les gens sont venus, quoi.
Voilà.
C'est plus comme ça que ça s'est passé ce soir, en tout cas. Donc, Kaliken, pas de sujet d'actu, je suppose.
Je sais pas. Est-ce que vous aviez traité du Paris Game Week déjà ou pas?
Ouais, non, pas du tout. Alors si tu veux dire des choses dessus,
bah, écoute,
faut pas te gêner.
Personnellement, moi j'étais sur le stand Nintendo avec d'autres personnes de la DS in Paris et j'étais dans l'arène quoi, j'étais dans le truc de Smash Bros, donc c'était une horreur, mais en fait c'était très bien. Et du coup, il y avait beaucoup de monde, le jeu arrive à fédérer plein de joueurs et ça a même été élu meilleur jeu de baston du Paris Game Week. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de concurrents, mais voilà, donc il y avait une bonne ambiance. Après le salon, moi en lui-même, je suis pas giga fan de la population entre guillemets qu'il peut y avoir. Je préfère un peu Japan Expo, mais ceci dit, je trouve que le stand Nintendo est toujours assez classe et voilà, c'était quand même une bonne ambiance, 5 jours plutôt sympa.
D'accord, t'as fait les 5 jours ou...
Oui.
Oh.
C'était très fatigant. Non, mais c'était cool, il y avait pas mal de jeux à tester. Alors moi, j'étais vraiment le nez dans le guidon avec Smash Bros, mais je crois qu'il y avait Pokémon Ruby Saphir, il y avait pas mal de trucs qu'on pouvait tester.
En général, le stand Nintendo à la Paris Games Week, il est assez soigné, parce que
c'est même le seul
événement,
hein, voilà,
en France, de toute façon... Enfin, c'est le seul événement de ce type-là en France. Il y a le Toulouse Game Show, mais le Toulouse Game Show est quand même un petit peu
mais
plus léger, on va dire.
Je crois que le Paris Game Week, ils ont quand même des grosses ambitions, parce que je crois que l'année prochaine, ils voudraient en faire carrément le salon européen devant la Gamescom.
Devant la Gamescom.
Ouais, mec, je pense que, enfin, j'avais entendu dire qu'il voudrait faire carrément les conférences des constructeurs au Paris Games Week. Mais d'ailleurs, d'accord. En termes d'affluence, je crois qu'il a dépassé la Gamescom. Ou il est pas loin, il talonne, il est pas loin.
Ce qui serait quand même un sacré exploit, parce qu'en Allemagne, il y a quand même, enfin, c'est à Leipzig, si je me rappelle bien. Et,
bah, c'est à Cologne maintenant.
C'est à Köln.
Mmh. Et, Köln.
Köln, il y a. Et en général, il y a quand même sacrément du monde, hein, parce que en Allemagne, déjà, il y a... Voilà, c'est beaucoup plus peuplé qu'en France, ils sont très très joueurs aussi. Et la région de Cologne, il y a énormément de gens, donc de toute façon, il y a beaucoup de gens qui font le déplacement pour la Gamescom. Donc c'est vrai que c'est ambitieux. C'est bien.
C'est ambitieux, est-ce que c'est possible ? Je sais pas, mais je crois avoir entendu ça. Donc on verra.
C'est pas inintéressant. Moi j'ai juste une question. La dernière fois que j'étais à la Paris Games, j'arrive pas à le dire.
Paris Games Week. Ouais, voilà, c'est ça.
Games Week. Donc à chaque fois que j'étais à la semaine de jeux parisienne,
tout à fait.
Moi je suis ressorti de là, j'avais la tête comme une putain de pastèque. Est-ce qu'ils ont réussi à baisser le niveau sonore, notamment des stands de Kéké ? Je pense à Activision qui avait foutu sa sono à donf l'année dernière, c'était juste insupportable. Ou est-ce que c'est toujours le bordel, il faut se balader avec des boules caisses si on veut être peinard ?
Alors, pour rien te cacher, même avec des boules caisses, et j'étais sur le stand Nintendo qui sont pas vraiment des ports par rapport à ça. Tu m'entends ? Oula.
Oui, je t'entends.
Oui, pardon, parce que j'ai eu un truc à jouer. Voilà, donc même avec des boules caisses, j'ai eu des acouphènes 2-3 jours après, parce que c'est la folie. Donc même sur le stand Nintendo, le son était beaucoup trop fort, enfin du moins sur Smash Bros. Et ensuite, j'ai pas eu le temps de faire un grand tour du salon, mais il y avait des... Ouais, le son est toujours super fort, surtout sur les gros salons, enfin les gros stands, genre Call of Duty, etc. C'est quand t'as un peu les oreilles fragiles, comme moi par exemple, c'est un petit peu difficile.
Et t'as quand même réussi à tenir 5 jours.
Ouais, mais je crois
que j'ai
eu des beaux acouphènes pendant 2-3 jours, et j'avais des boules caisses. Hein.
Ah oui,
donc,
quand même.
C'était assez chaud.
Donc c'est quand même assez violent.
Ouais.
Merci pour le résumé, en tout cas.
Voilà, oui.
Cette année, moi j'y suis pas allé parce que j'avais pas d'invitation et j'avais pas envie de. L'année dernière, j'avais eu des invitations, donc c'est un peu différent, mais cette année, j'y suis pas allé. Donc du coup, merci pour le petit résumé.
Mais écoute, la prochaine fois, tu nous demandes, parce que nous, souvent, on a des invites à faire donner aux gens.
Ouais,
donc,
je voilà. sais, mais si tu veux, je profite déjà tellement de la générosité de Nintendo que je peux pas faire ça, quoi, je peux pas me permettre.
Mais si, il faut se permettre.
Bon, retour d'ascenseur, si t'as envie d'essayer les jeux de l'E3 l'année prochaine, tu me dis, hein, c'est vrai que cette année, en juin, j'y étais allé avec Antix, c'était très sympa.
Donc, bah écoute, avec plaisir. Voilà. Ok.
Gwezeout, je suppose que tu n'as pas. Camarade Gwezeout n'a pas de sujet d'actu, je pense.
Voilà, c'est plus simple quand tu dis Gwezeout.
Ouais, je sais, mais j'aime bien dire Gwezeout.
Non, j'ai pas de sujet d'actu. Comme je disais tout à l'heure,
Alors, à part l'énorme tôle qui est en train de se prendre Sonic Boom, mais ça, d'une certaine manière, c'était un peu prévisible.
C'est pas vraiment un sujet d'actu. C'est. Ouais, voilà, comme tu dis, c'était prévisible et. Là, visiblement, il y a personne pour le sauver. D'habitude, il y a toujours quelques irréductibles à continuer d'apprécier les jeux Sonic. Et là, ce dernier, il y a vraiment très peu de monde qui arrive à lui donner des points positifs, quoi.
Ouais, c'est vrai que pour l'avoir essayé, je considérais que c'était mauvais, mais j'avais pas l'impression que c'était beaucoup plus mauvais que Sonic Lost World.
Mais ils ont essayé de faire quelque chose d'autre, j'ai l'impression, mais ils se sont complètement plantés, quoi, j'ai l'impression.
Enfin, il a l'air truffé de bugs aussi.
Mais c'est surtout ça, c'est que le jeu, enfin, des jeux truffés de bugs à leur sortie, on en a déjà vu. Je veux dire, Skyrim, le jour de sa sortie, il était absolument criblé de bugs, enfin voilà. Mais après, t'as un tel potentiel derrière que les gens s'assoient un peu dessus. Il y a des patchs Day One, ce qui est un peu lamentable, mais bon, il y en a quand même. Et on y arrive là, pour moi, il n'y a pas eu de patch correctif et il y a des erreurs dedans qui sont de l'ordre du jeu pas fini, quoi. Enfin, on dirait qu'ils ont livré une alpha, quoi.
Et c'est même bizarre que Nintendo ait accepté de valider le jeu pour qu'il sorte avec le nombre de bugs. Enfin, tout le monde se moque de Sonic Boom en ce moment parce que tous les jours il y a de nouveaux bugs, des nouvelles vidéos qui apparaissent.
Alors après, je sais pas, il y a deux phénomènes quand même. Il y a le fait qu'effectivement le jeu a l'air d'être relativement buggé, ça c'est vrai, je pense qu'on peut pas le nier. Maintenant, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui les cherchent. Et
oui,
bugs,
oui,
quand
aussi.
On les cherche pas, on a tendance à pas trop les trouver. Mais depuis Sonic 2006 sur Xbox 360, qui était aussi criblé de bugs, je pense que maintenant, il y a une espèce de sport national qui consiste à essayer de trouver le plus de bugs possible dans les jeux Sonic qui sortent.
Ouais.
Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui les cherchent aussi.
Oui, c'est possible.
Mais c'est aussi parce que c'est une lente descente aux enfers, les Sonic. Là. Enfin, moi, je suis pas un fan de la série, mais j'ai l'impression que chaque épisode, c'est de pire en pire.
Tout le monde pensait qu'il avait touché le fond du baril avec justement Sonic 2006, qui est quand même un ratage absolument.
Après, il y en a eu quelques-uns qui étaient pas trop mal, enfin, en tout cas, qui avaient été appréciés. Alors, moi, je sais que j'avais beaucoup aimé Sonic Colors, et il y a eu Sonic Generation après aussi qui a eu ses fans. Mais après, tous les autres, tous ceux qui ont sorti, le précédent. C'était Lost World, c'est ça, je crois.
Tout à fait. Lost World, moi, je
sais. Déjà, il y avait pas beaucoup. Enfin, déjà, c'était pas terrible du tout, mais celui-là a l'air de faire encore pire, quoi, en fait.
Mais globalement, Lost World, il a plutôt reçu des critiques, on va dire, positives, majoritairement positives. C'était pas
plutôt moyen, quoi. Moyen plus.
Moi, personnellement, je trouvais ça absolument ignoble. Mais
Il est très peu joué, donc il peut pas trop dire, mais.
Mais tu es heureux, tu es chanceux.
Ouais, j'avais d'autres priorités plutôt.
Enfin voilà, donc je voulais reparler un petit peu de Sonic Boom parce que c'est vrai qu'on n'a pas été très charitable avec le jeu depuis 2 semaines sur le dojo, on le taille bien.
Bah, là, il est sorti aux États-Unis et il sort que là, cette semaine en Europe.
Cette semaine en Europe. Ouais. Et bon, voilà, on n'a vraiment pas été gentils et je me suis dit pendant un moment, bon, on est peut-être un petit peu méchant. Et en fait, quand tu regardes, non, on n'est pas méchant, c'est vraiment très, 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 très mauvais. Même les gens que je connais qui étaient plutôt indulgents vis-à-vis de Sonic ont tendance à considérer que là, on tient un des pires de la série. Et quand on parle de pire de la série en ce qui concerne Sonic, ça va vraiment très, très, très loin parce qu'il y a eu des bouses absolument. Mémorable sur Sonic. Bref, je voulais pas parler que de Sonic. Il y a deux petits sujets d'actualité très rapidement. Alors le premier, c'est peut-être pas forcément vous dire grand-chose, mais c'est la disparition de la prise Péritel. Alors je vous rappelle que la prise Péritel, c'est un standard français, oui monsieur, et qu'elle était obligatoire sur tous les téléviseurs vendus en France depuis 1976, quelque chose comme ça, 1973-1976, je me souviens plus exactement. Et donc tous les téléviseurs en France devaient obligatoirement être équipés d'une prise Péritel. Comme elle est de moins en moins utilisée, elle a été remplacée au fur et à mesure par le HDMI notamment, mais d'autres connectiques, ce ne sera plus obligatoire à partir de l'année prochaine pour les fabricants de téléviseurs qui vendent en France d'avoir une prise Péritel. Donc
même jusqu'à maintenant, en fait,
c'était toujours obligatoire.
Ah ouais, même sur les écrans plats, ouais, il y a toujours.
C'était toujours obligatoire.
J'ai même pas fait gaffe qu'il y en avait une sur mon dernier écran.
Alors il y en a une. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est avec les télévisions super plates, les constructeurs ont tendance à te rajouter un petit truc au fond du carton avec une espèce de fil et au bout duquel t'as une prise femelle Péritel.
Ça devait être ça, ouais, parce que moi j'ai jamais fait gaffe.
Y a moyen. Alors la prise Péritel, c'est une connectique à la con. Faut quand même être très honnête, très fragile. On a tous dans notre enfance et massacré une prise Péritel pour essayer d'avoir la couleur ou l'image.
Et j'ai jamais rien compris aussi pourquoi des fois il y avait tant de broches, des fois moins, des fois plus.
Alors
la
en
prise.
Fait, ça dépend en fait du signal véhiculé.
D'accord.
Parce que la norme dit très exactement que la connectique c'est le tuyau quoi. Hein, c'est pas ce qu'on fait circuler dedans. Et ensuite il y a le signal qu'on envoie à travers. Et la norme en France dit que tous les téléviseurs doivent donc être équipés d'une prise Péritel, et que cette prise Péritel doit au moins pouvoir véhiculer un signal CECAM, donc le signal standard de la télévision française jusqu'à il y a quelques années avant l'arrivée de la TNT, et un signal RGB. C'est-à-dire que le minimum qu'on leur demande, c'est de faire CECAM et RVB. Après, beaucoup de fabricants de télévision ont commencé à mettre plusieurs autres signaux sur les prises Péritel, notamment du composite, du S-Video. Alors évidemment du RVB parce que c'était obligatoire, mais voilà, à accepter d'autres types de formats en plus de ceux qui étaient demandés. Alors c'est pour ça que tu as différents types de broches. En fait, quand tu as du composite, t'as tendance à avoir beaucoup moins de broches. Quand il y a du S-Video, t'as 2-3 broches supplémentaires. Quand t'as du RVB, t'as quasiment toutes les broches qui sont présentes. Et il me semble que dès qu'on voulait faire du stéréo un peu particulier, il y avait 2-3 broches en plus aussi. Voilà.
Ok.
Donc ça c'est pour la petite histoire. Et donc c'est quand même grâce à cette loi que en Europe on a quasiment toutes les consoles qui sont sorties en Europe, toutes les consoles qui sont sorties en France ou presque, et quasiment toutes les consoles qui sont sorties en Europe étaient compatibles RGB. Alors ok, nos jeux étaient en 50 Hz, mais ils avaient une qualité d'image qui était bien supérieure à ce qui se faisait ailleurs où les gens avaient que du composite, du S-Video dans le meilleur des cas.
D'accord. Le truc Péritel était quand même un gage de qualité finalement.
Bah, pas forcément, parce que tu peux véhiculer du composite. Seulement,
d'accord,
comme tous les téléviseurs vendus en France étaient obligatoirement compatibles RVB, il y a eu énormément de consoles compatibles RVB. Typiquement, la NES, elle a mis beaucoup de temps à sortir en France parce qu'il a fallu créer un circuit RVB pour sortir une image, enfin pour sortir un signal RVB de la console. La NES française ne ressemble pas du tout à une NES allemande ou italienne. Ou... Voilà, c'est... Nous, on a du RVB, tous les autres au monde, toutes les autres NES au monde ont du composite.
C'est l'exception française.
C'est l'exception culturelle. Ouais. Voilà, donc la disparition de la Péritel, bah, c'était un peu logique en même temps, c'est vrai que la connectique commence un petit peu à dater. Maintenant, c'est vrai que ça veut dire que dans quelques mois, quelques années, on pourra plus du tout brancher des vieilles consoles sur des téléviseurs neufs. Il faudra obligatoirement passer par des boîtiers externes type upscaler et autres.
Peut-être qu'ils feront des adaptateurs, c'est pas possible.
Alors, ils pourront, mais comme ils sont pas obligés de le faire et qu'il y a de moins en moins de gens qui le demandent...
Oui, oui.
Il y a quand même assez peu de chance. Ouais. Maintenant, moi j'en ai testé quelques-uns des upscalers. J'avais fait un petit sujet, une petite série d'articles sur le dojo pour expliquer les différentes façons de traiter le signal en fonction des consoles, des régions, des fréquences et ainsi de suite. Donc j'avais fait un truc un petit peu complet. Je devais finir par des tests d'upscalers que j'ai pas eu le temps de faire en entier. Là, j'ai quasiment tout bouclé. Donc je vais me débrouiller pour publier ça assez vite. Voilà, il y a quelques très bons upscalers qui existent aujourd'hui. Il y en a qui coûtent très cher, il y en a qui coûtent beaucoup moins cher. Donc on pourra quand même arriver à se débrouiller pour tout brancher. Simplement, voilà, il faudra rajouter un petit peu de... Il faudra mettre la main à la poche pour arriver à brancher une vieille console sur une télé toute neuve. Et le deuxième petit sujet dont je voulais parler avant de passer à la première pause musicale, c'est la santé financière de Sony. Alors vous le savez peut-être pas si vous avez suivi un tout petit peu l'actualité économique ces derniers temps, Sony vient d'annoncer prévoit de faire 2,5 milliards de dollars de pertes sur l'exercice en cours.
Sony toute la boîte, pas Sony
toute la boîte,
d'accord.
Pas Sony juste jeux vidéo, toute la boîte, sachant que justement toutes les divisions de Sony sont dans le rouge sauf la division PlayStation.
Bah ouais, 12 millions de consoles au moins. Je crois que c'est ça.
Ouais, ils ont eu vraiment de la chance, ouais. Quelque part, ils ont de la chance que la PS4 ait aussi bien marché. Ça sauve les meubles. Ça suffit pas, mais au moins ils ont cette branche qui est dans le vert. Mais...
Alors voilà, et justement, les analystes professionnels de chez Bloomberg, alors c'est pas des analystes jeux vidéo, je rappelle, c'est des analystes financiers, hein, donc ils essayent vraiment de voir, disent que voilà, alors Sony a déjà vendu la branche Sony Vaio, qui fabriquait des ordinateurs portables, je crois que c'est tout. Donc ils l'ont déjà vendu il y a quelques mois.
Ils ont vendu aussi ces dernières années leurs immeubles et tout. Enfin, ils ont commencé. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu reculer plus. Tous les ans, ils vendaient des trucs pour pas que ça se voit trop, qu'ils perdaient énormément d'argent. Et là, cette année, peut-être, il n'y avait plus grand chose à vendre. Donc c'est pour ça qu'on voit les grosses dettes, quoi. Les gros déficits et.
Là, ouais, effectivement, la situation va quand même devenir un peu problématique. Ce que disaient les analystes financiers, c'est que il faudrait que Sony commence à se débarrasser de ses divisions internes. Et eux, ils donnaient deux probabilités. C'est soit ils vendaient la branche Sony Mobile, qui donc est l'ancien Sony Ericsson, l'ancienne joint venture Sony Ericsson. Donc ça, c'était une possibilité, c'est-à-dire de dire, ok, on vend Sony Mobile à quelqu'un d'autre. Donc la marque Xperia tomberait chez un autre constructeur, tout simplement. Qui récupérerait aussi tous les brevets associés. Donc la valeur en fait de cette division-là, elle est essentiellement dans les brevets qu'a déposé Sony sur la partie mobile. Et la deuxième possibilité évoquée par les analystes, c'était Sony vend la division PlayStation et la marque PlayStation à quelqu'un. C'est-à-dire que finalement, Sony se débarrasse de la marque PlayStation. L'intérêt de l'opération pour la marque PlayStation étant... c'est la seule division qui est dans le vert.
Ouais, ils pourraient gagner plus d'argent peut-être en vendant ça.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'ils pourraient vendre très cher cette division-là en disant, regardez, ça a énormément de valeur à la base, et en plus, elle rapporte toujours de l'argent.
Elle rapporte toujours, je crois que c'est assez récent que gagne de l'argent avec ses PlayStation.
Voilà, parce que c'est relativement cyclique en réalité. Mais globalement, ils gagnent de l'argent. Et l'idée de Bloomberg derrière... pour décortiquer un peu, c'était de dire, s'il y a quelqu'un qui se porte acquéreur, mettons par exemple, c'est une hypothèse personnelle, hein, mais disons que Amazon se porte acquéreur, Amazon récupérerait la marque PlayStation, détruirait probablement l'ensemble de l'écosystème, mais récupérerait PlayStation Network en tant que tel, et se dirait, ok, on peut faire un concurrent de Steam en faisant 100% dématérialisé, avec éventuellement un concurrent de la Steambox qui serait la PlayStation 4 et éventuellement une future PlayStation 5. Voilà.
Ça me paraît complètement impossible, ça. Enfin, je sais pas si on est trop ancré dans nos habitudes, mais que Sony n'est plus PlayStation, ça me paraît
écoute,
ouf.
c'est, ça faisait partie. Alors après, c'est des analystes financiers, donc leur spécialité, c'est voilà, de donner un avis financier. Les mecs disaient, voilà, la seule chose qui aujourd'hui pourrait valoir du pognon chez Sony, suffisamment, je veux dire, pour être capable de les renflouer pour quelques années, ce serait de vendre la division PlayStation. Après, est-ce que ça arrivera, est-ce que ça arrivera pas? Sony a déjà été dans une sacrée panade il y a quelques années, et tout le monde s'était dit, ah, peut-être que la division PlayStation va sauter. On savait tous que la marque PlayStation allait rester, parce que aujourd'hui, je pense que quelqu'un rachètera la marque. C'est un peu emblématique. Maintenant, c'est vrai que voilà, la situation est un petit peu compliquée. Il y a pas mal de gens qui commencent à se dire, bah, si ça se trouve, effectivement, la division PlayStation va partir. Je vous dis, quelqu'un d'autre la rachètera, j'ai aucun doute là-dessus. Qui, selon quelle modalité, qu'est-ce qui restera? Je me dis qu'aujourd'hui, c'est vrai que Steam et Valve, c'est une grosse épine dans le pied de pas mal de gens. Ouais. Notamment de Microsoft, qui commence à les avoir, à l'avoir un peu mauvaise.
Non, mais Microsoft rachètera jamais la PlayStation.
Alors, Microsoft rachètera peut-être pas la marque PlayStation, mais, quoique, avec l'équipe de Xbox One qui est en train de se péter la gueule, pourquoi pas. Voilà, il y a d'autres gens qui pourraient intéresser. Je pense que Amazon aujourd'hui, ils ont par exemple un livre en ligne, magasin de vidéos en ligne, magasin de musique en ligne. Il leur manque le magasin de jeux en ligne. Et c'est vrai qu'ils auraient tout à fait les capacités de dire, bah voilà, nous on rachète, on fait Amazon PlayStation Network et c'est parti mon kiki quoi.
Ou alors des sociétés qui sont pas encore dans le jeu vidéo mais qui voudraient s'y lancer, genre je sais pas, Google, Apple, je sais pas.
Ouais, ça pourrait arriver aussi, mais voilà. En tout cas, l'avenir est un petit peu incertain.
Ah, c'est dingue.
Pour Sony au global.
Ça fait des années hein, que Sony, ils se traînent.
Ils vivotent, oui. Parce que tu disais, ils vendent tous les ans, ils vendent des trucs pour arriver à survivre. Ouais. C'est étonnant quand tu regardes que, effectivement, le seul truc qui marche bien depuis des années, qui a des pertes de temps en temps, mais qui globalement marche pas mal, c'est quand même la division Entertainment.
Et encore,
Mais ça vient pas de la Vita.
Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça vient pas de la Vita.
Effectivement, ça va être un petit peu compliqué. Mais non, il y a Vita in Paris, donc on va arriver à...
Ouais.
Bref. Voilà, comme j'ai beaucoup parlé, on va faire une première pause musicale, parce que j'ai besoin de me reposer un peu la voix. Et donc, on va écouter... Alors, le thème de cette émission étant plutôt Majora's Mask, hein, j'aurais pu mettre des petits extraits de la bande originale de Mario Kart 8, mais j'ai choisi de faire du Majora's Mask. On va écouter le thème du laboratoire astral, donc Astral Observatory, de Majora's Mask. Ça dure un tout petit peu plus de 4 minutes. C'est la version orchestrale, je précise, qui a été enregistrée en 2002. Et donc, ça dure un tout petit peu plus de 4 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Nous sommes de retour. Tour.
On est plus là.
C'est bien de vérifier que les invités suivent toujours. C'est après la pause musicale, on n'est pas sûr. Tout le monde se repose. Est-ce que ton micro marche toujours? Tour.
Voilà.
Voilà. C'est un peu comme Tora. Ah, tour. C'est bon, ça marche. On va peut-être essayer de reprendre un petit peu de sérieux.
Bien sûr.
Enfin, après tout, à cause de ça.
Sérieux, bah ouais.
Le premier DLC de Mario Kart 8, rappelez du 2-3 petits éléments factuels, donc ça coûte 8€.
Oui, sauf.
Sauf si on achète, si on précommande le deuxième.
Qui est pas encore sorti.
Qui est pas encore sorti, qui sortira au mois de février.
Mais, je crois.
Ouais, ah merde, je pensais que c'était plus près que ça.
Début 2015, voilà.
2015, quelque part. Donc sauf si on précommande les deux, quelqu'un en paye 12€ les deux, donc à peu près 6€ l'unité. 12 divisé par 12, ça doit faire à peu près 6.
À peu près, ouais.
À une vache près, hein, c'est pas une science exacte, mais je veux dire... Voilà. Et donc, sinon, c'est 8€ pour le DLC 1, et ce sera probablement 8€ pour le DLC 2. Je crois que d'ailleurs, c'est 8€ pour le DLC 2.
Oui, je crois que c'est ça, ouais.
Voilà. Et donc, on a pu y jouer depuis vendredi, donc jeudi ou vendredi, je sais plus exactement.
As-tu testé? Parce que moi, j'ai pas testé.
Alors, moi, j'ai testé. Je sais que Guzush a testé.
Ouais.
Alors, je sais pas, on va peut-être essayer de détailler un petit peu ce qu'il y a dedans, déjà pour commencer, puis éventuellement donner notre avis sur les quelques petites choses qu'il y a dedans. Donc, il y a 3 nouveaux personnages, Link, Mario Tanuki et Peach Chat.
Voilà.
Je sais pas, Guzush, qu'est-ce que t'en pensais, toi, des nouveaux personnages?
Link est un personnage qui est très bien, parce que si on veut faire des bons temps et tout, c'est un personnage lourd, donc c'est un personnage qui est déjà beaucoup utilisé en ligne, parce que c'est l'un des plus rapides. Et après, les deux autres, c'est dommage que ce soit des variations et pas des nouveaux personnages, quoi. Je trouve qu'ils auraient peut-être pu élargir un peu le casting, vu qu'ils prenaient Link, ils auraient peut-être pu rajouter d'autres personnages de l'univers Zelda, par exemple. Ça aurait été peut-être un peu plus sympa que justement Peach, Shaw et Mario Tanuki.
Alors tu voulais quoi comme personnage, genre Impa, Princesse Zelda?
Ouais, voilà, ouais, par exemple.
Et la reine des insectes qu'on a eu dans Hyrule Warriors.
Non, peut-être pas jusque là, mais il y avait quand même quelques personnages de Zelda qui auraient pu. Ouais, rien que Zelda déjà, ça aurait été pas mal.
C'est vrai que Zelda, ça aurait été vraiment sympa. Surtout que les tenues moto de toutes les filles du jeu sont très 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 jolies. C'est vrai que la princesse Zelda dans une tenue moto, je pense que beaucoup de gens auraient eu du mal. Hein.
Ouais. Bah, ça a pu varier aussi un petit peu les persos féminins, parce que là, les persos féminins, on voit beaucoup d'harmonie. C'est pareil en ligne, il y a énormément de monde qui joue à harmonie.
Alors, est-ce que harmonie, je me rappelle bien, il y a des légers, des moyens, des lourds.
Je crois
et
que c'est un lourd harmonie.
Oui, il me semble qu'harmonie est lourde, elle est pas super lourde.
Et c'est d'ailleurs comme dans Smash Bros, c'est un personnage lourd. Je sais pas pourquoi. Parce qu'elle est grande ou.
Oui,
ouais,
voilà,
peut-être.
C'est pour ça. Ouais, ouais.
Parce qu'elle en impose.
Ouais.
Parce qu'elle a qu'un œil.
Elle a qu'un œil.
Bah, on voit jamais le deuxième.
Ah oui, c'est vrai. C'est un Sharingan en dessous.
Ah, ouais,
c'est vrai. C'est ça.
Si ça se trouve, c'est un cyclope. Ah, on sait
tout
pas.
Tout à fait. Et j'avais entendu parler d'ailleurs, petite parenthèse, qu'Harmony, c'est la fille de Mario et Peach du futur.
Ouais, il y a cette hypothèse. Ça fait partie des hypothèses.
D'accord.
Il y a un faisceau de preuves, disons, qui nous permettent de dire que c'est vrai que ça ressemblerait bien à ça.
On attend la chronologie officielle dans Mario Story.
La chronologie officielle de Super Mario, elle n'est pas sortie. Hein.
Ouais.
Alors, Super Mario Galaxy, ça se passe après... Non, attendez.
Super Mario Bros. 2, il serait capable. Hein.
Ah non, ouais. Mais de toute façon, ils l'ont fait pour Zelda. Alors, je veux dire, ça avait tellement pas de sens qu'ils pourraient le faire pour n'importe qui d'autre. Ça marcherait. Hein.
Tetris.
Tetris, la chronologie officielle. Non, ça, c'est vilain. Non, parce qu'il y en a qui ont une F-Zero, c'est une chronologie officielle. Tiens, d'ailleurs, à propos de F-Zero, donc, j'enchaîne. Nouveau véhicule. Ouais.
Alors, il y a très bien, d'ailleurs, ce nouveau véhicule.
Alors, il y a le Blue Falcon. Moi, je l'ai pas du tout essayé, je sais pas si t'as essayé l'occasion d'essayer Guzush.
Non,
je
l'ai pas essayé, mais il paraît qu'il est très bien aussi. C'est un bon véhicule, quoi. En dehors de son look, qui fera plaisir aux fans de F-Zero, c'est un bon véhicule, donc qui va sans doute être très joué aussi.
Alors en fait, le combo gagnant de ce DLC, c'est Link dans le Blue Falcon.
Voilà,
c'est un peu le concept.
Ouais, c'est le mix improbable un peu, mais...
Alors il y a le Buggy Tanuki qui ressemble beaucoup en réalité au Buggy qui existe déjà. Je pense que d'ailleurs, à mon avis, c'est le même à vue de pied. Pas de grosse différence entre les deux.
C'est pas mal pour ceux qui roulent pas droit, parce que c'est bien pour le hors-piste. Quoi. Donc pour ceux qui ont du mal à aller les virages, ça peut être pas mal.
Ouais, c'est un truc un peu bourrin mais qui marche bien.
Ouais.
Et il y a le retour de l'Intrépide de Mario Kart DS. Alors, par contre, ça, je pense que Kaliken, l'Intrépide, t'as dû pratiquer un petit moment.
Tout à fait, l'Intrépide, en fait, on faisait des cartons, c'est-à-dire 32 courses sur DS, on faisait des courses en total avec l'Intrépide qui n'était pas un kart de ouf, en fait, surtout qu'il l'empêchait de snaker à l'époque. Et l'Intrépide, c'est un kart légendaire, en fait. C'est le kart de Mario.
Ouais, voilà, c'était celui qui était sur la pochette de Mario Kart DS, c'était le... Voilà, c'est
moi, je trouve que c'est une boost, mais c'était sur DS que je crois que c'était une boost, peut-être qu'ils l'ont un peu amélioré.
Alors moi j'ai joué avec l'Intrépide parce que je jouais avec l'Intrépide sur DS parce que je suis un guerrier.
Tiens,
je suis un ouf, je suis un déglingo moi, tu sais. Moi je joue à Mario Kart avec une moto, hein. C'est un truc de fou.
Wow. Hein. Moi aussi.
Ah merde. Non, moi j'arrive pas à jouer avec les motos en plus. C'est vrai que j'arrive pas du tout à jouer avec les motos.
J'ai pris l'habitude avec Mario Kart Wii de jouer avec les motos qui étaient enfin qui était plus rapide que les cartes dans, dans cet épisode. Et après ils ont rééquilibré déjà. Enfin dans le celui d'après ils avaient enlevé je crois ou c'était
sur 7 il y a pas les motos.
Ouais voilà, Mario Kart 7 il y a pas de motos.
Mais
ouais,
tu peux jouer avec le gyroscope. Chacun son handicap.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, on va faire un nouveau défi. Moi, je joue avec le gyroscope et toi, t'as le droit de jouer normalement. On va voir qui c'est qui gagne.
Ouais.
Il y a des mecs qui sont très forts. Hein. Il y a des mecs au championnat de France de Mario Kart qui jouent avec le gyroscope. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a.
Il y en a, ouais.
Non, mais après, t'as des tarés partout. Hein. Il y a un mec au championnat du monde de Shootmania. Il jouait avec une manette avec deux sticks. Hein. Alors, moi, j'étais là, genre, attendez, clavier, souris, non. Non, non, le gars, il va au double stick.
Pourquoi pas?
Des tarés, il y en a partout.
Non, après, c'est une question d'habitude aussi. Quand t'as l'habitude de jouer, t'as passé tellement d'heures à jouer d'une certaine façon, c'est dur de changer, quoi. Je pense que...
Ouais, c'est sûr. Moi, je voudrais juste émettre un petit avis par rapport à ce DLC, si vous permettez.
Mais je t'en prie.
Ça me choque, en fait. C'est peut-être con, mais ça me choque qu'il y ait Link. Parce que pour moi, qu'on voit Link dans Smash Bros. Ok, mais c'est Mario Kart. Et Link, il a rien à faire ici, tu vois.
Ben, c'est ce que voilà. disait Méduse sur le forum. D'ailleurs, ça va. De toute façon, ça se dirige de plus en plus vers Nintendo Kart, en réalité.
Ouais.
Mais qui s'appellera sans doute jamais Nintendo Kart. Étant
non,
donné
non,
la,
jamais.
Vu que Mario Kart est tellement connu. Mais...
Enfin, moi, s'ils appelaient ça Super Kart Bros, si tu veux, ça me choquerait pas. Hein.
Non, non, ouais. Mais c'est clair, mais. Voilà, on est habitué à une atmosphère, à plutôt voir les personnages de Mario. Il y en a encore plein qui n'ont pas été exploités, des personnages de Mario. Ils peuvent toujours récupérer plein de trucs.
Moi, au contraire,
vas-y, cite-moi juste un pour rigoler.
Ça, il pourrait prendre l'ennemi dans Mario Bros 2. L'espèce de... C'est pas vraiment Koopa, là, c'est l'espèce de lézard dégueulasse.
Ah oui, le truc, la grenouille.
Ouais, voilà.
Le crapaud, je sais pas comment il s'appelle.
Je sais plus non plus. Il pourrait prendre Kamek.
Il est tellement charismatique. Ah Kamek, oui, c'est vrai que Kamek,
il
y a pas.
Défoncé.
Alors Kamek, il était prévu en fait dans Mario Kart 8. Il y a une des images de bêta où on voit Kamek dans le fond et je sais pas pourquoi il a pas été inclus.
Ça, c'est un personnage qui ferait sensation s'il revenait, ne serait-ce que dans Smash Bros.
Ouais. Mais alors peut-être qu'il sera dans le prochain DLC, puisqu'on sait qu'il y aura le villageois, a priori, dans le prochain DLC.
Oui,
parce que
c'est le DLC
qui est Animal Crossing.
Voilà, c'est ça, qui sera centré sur Animal Crossing. Et bon, vu le à mon avis l'énorme succès de ce DLC, ça m'étonnerait pas qu'on ait les dates après genre l'année prochaine quoi. Je pense pas.
Je
serais pas étonné quoi qu'il continue sur la lancée vu.
Alors, est-ce que c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que on a détaillé un petit peu le contenu là niveau personnage véhicule. On parlera peut-être un petit peu des circuits après parce
oui,
qu'il y a des petites choses à dire sur les circuits, je pense.
C'est plus important aussi.
Mais est-ce que pour toi ça relance vraiment l'intérêt du jeu? C'était effectivement le premier DLC, j'ai l'impression qu'il a plutôt bien marché.
Moi oui, j'ai l'impression pratiquement tous ceux qui avaient aimé Mario Kart 8, qui est d'ailleurs beaucoup aimé, enfin c'est considéré comme un des meilleurs par beaucoup de monde. Je pense qu'il y a très peu de monde qui a pas craqué parce que vu le rapport qualité-prix même moi qui étais j'avais jusqu'ici jamais acheté de DLC et j'ai pas. C'était obligé quoi.
Alors je suis un peu dans la même situation, c'est-à-dire que effectivement tu regardes le rapport qualité-prix, tu dis pour 12€, c'est-à-dire le quart du prix du jeu original.
Ouais voilà ouais.
Moins du quart du jeu original, t'as 50% de contenu en plus.
Voilà c'est voilà. Ça. Donc niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable quoi.
T'en as pas beaucoup des éditeurs qui font ça.
Non,
c'est vrai.
Voilà,
de mémoire, il y a éventuellement Rockstar qui donne des DLC gratos et qui fait des trucs comme ça. Et sinon, le reste, c'est vraiment des rapias. Donc c'est vrai que pour le coup, financièrement, il est intéressant. Ça,
on en a pour son argent d'un point de vue, je veux dire, purement comptable, quantitatif, j'ai envie de dire. Ouais. Effectivement, t'as 50% de contenu en plus pour 12€, c'est-à-dire, 25% du prix, moins de 25%. Pour 20% du prix, t'as 50% de contenu en plus, c'est clair que. Voilà. Et en plus, ça arrive finalement
un peu tard
dans la vie du jeu, c'est-à-dire que ça arrive. Alors voilà, est-ce que ça relance vraiment l'intérêt? Est-ce que jouer en ligne?
Beaucoup
de gens qui jouent avec le DLC.
Je trouve que oui, ça relance. Alors moi, contrairement à Kaliken, je trouve que le fait d'explorer d'autres univers comme Zelda ou il y a Exit Bike ou bientôt il y aura Animal Crossing, F-Zero. Enfin, voilà, je trouve que ça justement ça apporte un peu de nouveautés. On change un peu d'univers et c'est pas plus mal quoi. Les Mario Kart, ça fait tellement longtemps qu'on connaît les circuits, qu'on a un peu toujours les mêmes. Là, ça permet de varier un petit peu plus et je trouve que c'est une bonne chose. Et j'espère que c'est une direction qui vont continuer. Je pense que oui, mais qu'ils vont continuer à piocher dans d'autres licences. D'autres licences connues pour faire d'autres circuits et à mon avis relancer un petit peu la licence, quoi, parce que...
Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'être relancée, cette licence ?
Ben, je me dis qu'au bout de 20 ans, c'est vrai que le truc...
Ouais.
C'est quand même assez étonnant de voir ce... Mario Kart, t'as eu énormément de clones.
Ouais.
Oui.
Et finalement, le seul... Enfin, il n'y a aucun élève qui a fini par dépasser le maître, hein, je veux dire... C'est toujours là, et je pense que si c'est toujours là, c'est parce que bon, il y a un savoir-faire, ça c'est clair. Le jeu, il est fun, il a toujours été fun, et c'est vrai que là-dessus, ils sont jamais plantés, en tout cas, jamais de beaucoup. Mais j'ai l'impression que, effectivement, le fait que d'essayer de renouveler, c'est pas forcément une mauvaise chose au bout de 20 ans. Enfin, regarde Call of Duty, c'est en train de se casser la gueule gentiment parce que, bah, s'ils nous sortent un épisode copier-coller deux fois par an, quoi.
Bah, ils ont essayé de renouveler plusieurs fois en rajoutant les motos, en rajoutant les deltaplanes ou les courses sous l'eau. Ils avaient fait un peu le tour de ce qu'ils pouvaient faire, je crois, dans les
courses. D'un point du gameplay, oui, je pense que...
Ouais, voilà, ouais. Ouais. Donc là, à part changer encore, à part trouver encore d'autres véhicules que les cartes et les motos, voilà.
Il y a les bonus. Il y a un des trucs que j'ai lu beaucoup de gens qui regrettaient ça sur Mario Kart 8, notamment. C'est le fait qu'il n'y ait plus de bonus spécifiques à des personnages et ou à des véhicules comme on avait sur Double Dash. Et c'est vrai que c'était sympa. Alors, d'un point de vue équilibrage, je pense que ça doit être une horreur absolue à faire.
Ouais, je pense aussi. Ouais.
Mais à l'époque de la GameCube, c'est clair que c'était pas possible de le faire.
Non, mais ils ont essayé plusieurs choses. Hein. Oui, justement, à l'époque de la GameCube, ils avaient essayé aussi les doubles.
Un double pilote, moi j'ai trouvé. C'est franchement à jouer à 4 en 2 contre 2, c'est-à-dire 1 carte contre 1 carte. Mais c'est une putain de grosse poilade. Hein.
Oui, bah oui.
Je pense que personne n'a vraiment compris Double Dash. C'est vraiment quand t'es à 2 sur un quart que tu te marres le plus. Hein.
Ah, c'est sûr. Mm. Non, mais c'était une bonne idée.
Moi, j'avais bien aimé Double Dash.
C'est bien, il y a plein de fans de Double Dash. Ça me fait
plaisir. Bah oui.
Bah, de toute façon, moi, j'ai à peu près aimé tous les Mario Kart. Hein,
mais après, ceci dit, ce qui est vrai, c'est que Nintendo, on est un peu dans une zone de confort. On aime bien les critiquer parce qu'ils bougent pas, mais dès qu'ils bougent, voilà, moi le premier, voilà, ils font quelques nouveautés et... T'as un petit peu peur, toi, ne serait-ce que le fait de faire des DLC, c'est pas vraiment le premier DLC qu'ils font, mais forcément on s'inquiète parce qu'on a peur des dérives, même si le DLC en lui-même il est plutôt intéressant, t'as peur que ça devienne une habitude, qu'après il y ait des DLC genre pour des packs de costumes et tout.
Et qu'ils augmentent les prix aussi, quoi. Là,
voilà.
Faudrait pas qu'ils se disent, bon, ça cartonnait là avec
on va mettre 8 euros de plus pour le prochain, quoi.
Voilà, c'est ça, ouais. Faut pas qu'ils augmentent les prix, quoi. Si jamais ils voient que ça a marché comme ça, faudrait pas qu'ils.
Ouais, mais le problème, c'est que comme il y a des fans derrière, ça suivra toujours, donc
qu'ils
abusent.
Attends, justement, à propos de ça, je vous relance un tout petit truc là, mais vous avez pas l'impression qu'ils en ont fait quand même beaucoup sur ce DLC ? C'est-à-dire, moi j'ai l'impression. Qu'il fallait absolument le vendre, il fallait absolument que ce soit une réussite. Donc ils l'ont mis à pas cher. Ça, clairement, ils se sont dit ok. Voilà, ils ont mis une promo en plus dessus.
Ouais.
C'est-à-dire que même sans la promo, c'était quand même pas dégueulasse non plus. 8 euros le DLC, c'est quand même super correct.
Ils ont fait plaisir aux vieux fans avec Exit Bike et F-Zero.
C'est un peu ça. Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de fanservice pour être certain que, effectivement,
le
qui dort en chacun de nous l'achète absolument, quoi.
Ah ouais, je pense que oui. Je pense que c'est pour ça que ça. On aura sûrement les chiffres parce que Iwatoy est dans le. Ils vont avoir les chiffres, ils vont tout contents de les balancer parce que je suis certain que ça, c'était un énorme carton, quoi. Faudrait voir le pourcentage de possesseurs de Mario Kart 8 et le pourcentage parmi ces acheteurs, combien de monde a acheté des DLC. Mais à mon avis, c'est l'énorme majorité, quoi. Enfin, peut-être que je me trompe parce qu'il y a aussi une grande partie des joueurs de Mario Kart, c'est ce qu'on appelle entre guillemets les casus, donc qui vont pas trop sur internet et tout. Ils sont peut-être même pas au courant qu'il y a un DLC.
Bah, donc, en même temps, si t'as. Alors après, t'as toujours la possibilité que ta Wii U ne soit pas connectée à Internet, ça arrive, mais je veux dire, il y a les mises à jour du jeu, il y a la boutique qui est arrivée, il y a plein de trucs qui clignotent partout, on se croit presque sur ces discounts.
D'ailleurs, j'ai une question.
De la pub là-dessus aussi.
J'ai une question. Quelqu'un qui n'a pas téléchargé le DLC, est-ce qu'il peut jouer en online avec des gens qui l'ont téléchargé ?
Quand tu vas en ligne, tu choisis si tu veux jouer avec.
Avec le DLC ou sans.
D'accord. Et si tu l'as pas acheté, à mon avis, tu n'as pas le choix, quoi. Tu es obligé de jouer seulement.
Mais si tu veux, tu peux. Voilà, quand toi, tu achètes le DLC, tu peux exclure les gens qui ne l'ont pas acheté ou tu peux rajouter le fait que tu voudrais jouer sur les circuits du DLC.
Mais quelqu'un qui a pas téléchargé le DLC, il peut pas jouer avec quelqu'un qui.
Non.
Genre, a le card
non,
de Link.
Il sera obligé de jouer avec les.
À l'ancienne.
À l'ancienne, quoi. Avec les...
Alors, par contre, je sais pas si pour les personnages. Je pense que les personnages, tu dois pouvoir les voir.
Oui, je pense aussi, ouais.
Parce qu'une simple mise à jour, en plus, ça sera intéressant pour eux.
Je pense que le personnage, tu peux pas les jouer, mais tu peux les voir.
En théorie, oui, parce que comme ça, ça donne envie de les acheter.
Bon, d'ailleurs, de toute façon, il y a une multiplication de links, donc je pense qu'en réalité, il y a tellement de links online qu'effectivement, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû l'acheter.
Ouais.
Après, d'un autre côté, par rapport à ce que vous disiez, je pense que Nintendo aussi met le paquet pour ce Noël aussi, parce que la Wii commence un peu à se vendre aussi, donc...
Oui, ils savent très bien que Mario Kart 8, d'ailleurs, va continuer à se vendre là, encore à Noël, que ça va être...
Et mine de rien, c'est un Noël super important parce qu'ils en auront pas des Noëls, ils n'auront pas beaucoup des Noëls comme ça.
Alors justement, à votre avis, parce que ça s'est fait un petit peu au Japon, il y a eu quelques exemples comme ça de réédition de jeux, notamment sur 3DS, où quand le jeu était réédité, tu avais une espèce de version premium ou je sais pas quoi, dans lequel tu avais tous les DLC qui étaient réintégrés dans le jeu. Est-ce que vous pensez que ils finiront par faire ça aussi sur Wii U, éventuellement avec Mario Kart 8? C'est-à-dire, est-ce que, je sais pas, l'année prochaine, Noël 2015 par exemple, comme on sait que Mario Kart c'est un peu un long seller, c'est-à-dire c'est les jeux qui se vendent vraiment sur la durée et qui font de toute façon un carton sur la durée, est-ce que vous pensez qu'ils ressortiront un pack genre Wii U plus Mario Kart avec les DLC directement sur le disque? Ouais, Mario Kart 8 version complète entre guillemets.
Peut-être en pack comme ça ils le feront, oui. Mais ressortir le jeu avec les DLC, je suis pas certain, parce que Nintendo a l'habitude de pas trop baisser le prix de ses jeux, surtout ses long-sellers, quoi. Donc là, le faire, ça serait un petit peu changer leurs habitudes, quoi. Je pense que ils savent très bien que ceux qui vont acheter Mario Kart 8, la plupart des gens téléchargeront aussi le DLC, donc pour eux c'est tout bénef que
par exemple, quand tu achètes un pack New Super Mario Bros. U, tu as New Super Luigi U qui est offert avec. Alors je sais pas si c'est un sur un disque si c'est intégré dans la galette de New Super Mario Bros. U, si t'as une galette à part, ou si c'est juste un code de téléchargement. Ça peut être, je sais pas exactement sous quelle forme c'est, mais je sais que c'est le cas.
Ouais. Et là je trouve ça un peu différent, enfin... Ouais, je sais pas, c'est possible.
Honnêtement,
possible,
moi j'en sais rien, parce que ils s'ouvrent un peu petit à petit à ce mode, parce qu'ils sont quand même pas vraiment très coutumiers de tout ce qui était internet, DLC et tout, donc à mon avis, ils vont peut-être suivre l'exemple des autres. Parce que ce que font les autres éditeurs, je vois pas pourquoi ils le feraient pas eux.
Oui, enfin, de toute façon, il faut bien qu'ils s'y mettent. Hein.
Le truc, c'est que les autres éditeurs, quand ils ressortent leur jeu, avec les DLC, c'est parce que leurs jeux se vendent plus. Donc ils ressortent avec les DLC pour relancer les ventes. Alors le truc, c'est que les Mario Kart, ça va se vendre.
Il y aura peut-être pas besoin. Ouais.
Voilà, c'est ça. Ça va continuer à se vendre.
Effectivement, il y aura peut-être pas besoin.
Sauf peut-être en fin de vie de la console, peut-être que pour donner un dernier boost, ils sortiront le Super Mario Kart 8 avec les DLC inclus et tous les DLC et tout, quoi, pour en faire un peu
l'édition ultime. Ouais, voilà, mais effectivement un truc de fin de vie dans lequel
pour convaincre les derniers qui n'ont pas acheté, quoi.
L'édition meilleure vente dans lequel tu aurais pour 30 euros Mario Kart 8 l'ensemble des DLC, le truc, alors, la version qui bougera plus, il y aura plus de patch, plus rien, pouf.
Mais
ça
peut-être tu peux faire le truc à l'envers, peut-être que si les DLC au bout d'un moment se vendent pas, ils les mettent direct dans le jeu parce que c'est plus intéressant. Tant pis, quoi, finalement.
Oui,
autant donner la version complète et...
Mais je
et
pense
ça fait un argument de vente.
Voilà. Je pense qu'ils se vendent très bien.
Alors, juste avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, on fait un tout petit tour des circuits.
Oui, c'est ce que j'allais dire, on n'a pas trop parlé des circuits.
On n'a pas trop parlé des circuits, c'est un peu dommage, parce que vous avez embrayé tout de suite sur des sujets intéressants, donc je vous les ai laissés embrayer, ça aurait été dommage de casser l'ambiance. Donc les circuits rétro, alors contrairement aux autres coupes, alors d'habitude dans les Mario Kart, on a les coupes normales, entre guillemets, et les coupes rétro. Là, c'est mélangé, c'est-à-dire que dans une coupe, vous avez deux circuits rétro, deux circuits normaux. Ce qui est un peu curieux d'ailleurs, je sais pas exactement pourquoi ce choix a été fait.
D'ailleurs, il y a une des coupes où il y a trois nouveaux circuits et un rétro.
Alors oui et non, parce que Excitebike... il est un peu le cul entre deux chaises, celui-là.
C'est vrai, mais bon, c'est pas un circuit qui existait dans les
précédents Mario Kart. Non, c'est pas un circuit qui existait dans les précédents Mario Kart. Donc on a Circuit Yoshi de Mario Kart Double Dash. Donc, qui était très bon dans Mario Kart Double Dash et qui finalement est aussi bon.
C'est un de mes circuits préférés.
Je pense que c'est un des circuits préférés de beaucoup beaucoup de gens. C'est vrai qu'il est très technique. Par contre, du coup, très peu de modifications sur le circuit, voire aucune.
Ouais. Oui, très peu. Ouais.
Ensuite, on a donc le circuit Excitebike qui fait. Enfin, là, c'est vraiment du fan service.
Oui, c'est assez spécial comme circuit. Voilà,
il a aucun intérêt en soi, mais comme c'est Excitebike, tout le monde est content.
C'est ça. Ça aurait été le même circuit avec un décor Mario et tout. Tout le monde l'aurait trouvé nul. Mais là, vu que ils l'ont fait,
c'est un peu curieux parce que ça a vraiment aucun intérêt. Moi, je suis très content de voir un circuit Excitebike. C'est vraiment du fanservice, quoi.
Oui, voilà, ça change un peu. Il y a plein de boss. Et puis les boss, en fait, elles sont variables. Quand tu joues, en tout cas en ligne, tu retrouves pas les boss au même endroit selon la partie, en fait.
Ça, je savais pas. Ça se génère plus ou moins automatiquement.
Ouais. Y a pas énormément de différence, mais il y a des petits... de façon aléatoire, comme ça, les boss bougent un petit peu de...
À chaque D'accord, fois, à chaque ça fois. Je savais pas du tout. Ah bah c'est sympa finalement, ça, je savais pas que ça...
Ouais,
ça...
Un petit truc.
C'est rigolo.
Quoi. Ouais, voilà.
Donc dans les anciens circuits, on a aussi la Mine Wario de la version Wii.
Oui, pareil, un des circuits que j'aime beaucoup.
Ouais, qui est un très bon circuit, qui a pas subi beaucoup de modifications. Enfin, si toute la partie qui est à l'intérieur de la mine, en fait, est en antigravité maintenant. Mais c'est vrai qu'à part ça...
Du coup, maintenant, les chariots qu'on croise, faut foncer dedans. Alors qu'avant, il fallait les éviter. Maintenant, faut foncer dedans pour faire des accélérations. Les boosts d'antigravité.
Le boost tourbillonnant, là.
Voilà.
Et donc, il y a le dernier circuit rétro, qui est une Rainbow Road, celle de la version Super NES. Alors, c'est vrai que là, j'ai pas trop compris, parce que les Rainbow Road, on en est quand même à 3, du coup, dans ce Mario Kart.
Ouais.
Il y a la Rainbow Road version N64, de la coupe rétro, je sais plus laquelle. Il y a la Rainbow Road officielle, celle de Mario Kart 8. Et donc, il y a une Rainbow Road, celle de la Super NES. Alors...
Mais alors, attends, parce que celle de la Super NES, enfin, je l'ai pas testée, là, dans le DLC, mais il y en avait une de la Super NES sur Mario Kart 7. Alors, est-ce que c'est la même?
Oui, c'est la même, mais c'est ça qui est étrange, c'est qu'ils ont récupéré, ouais. Donc
C'est pas vraiment très intéressant.
J'ai pas super compris. Enfin,
c'est vrai que c'est un peu étrange ce choix-là.
Un mauvais circuit, hein, mais je veux dire, globalement, ce choix-là me paraît très curieux. De tous les circuits rétro qu'ils auraient pu piocher, y compris dans Mario Kart 7 d'ailleurs.
Oui.
Dans Mario Kart 7, il y a d'autres circuits qui sont très bons, qu'ils auraient très bien pu aller piocher. Pourquoi la Rainbow Road de la version Super NES? Là, franchement, j'ai pas compris.
Enfin, voilà, c'est étrange.
Ouais, c'est chelou. Ouais. Peut-être pour terminer par une Rainbow Road.
Même pas, parce qu'elle est en plein milieu.
Ah ouais, donc c'est pas du tout logique. Okay.
Pour terminer, pour se dire, voilà, le premier DLC est fini, on vous met une Rainbow Road. Mais là, même pas. Et donc, dans les nouveaux circuits, on va les balayer assez rapidement aussi, il y a la Route du Dragon, qui reprend le dragon de Mario Galaxy.
Oui, voilà. Qui est très joli circuit. Dans l'ensemble, de toute façon, tous les nouveaux circuits sont assez techniques, je trouve. À part l'arène Exit Bike, donc qui est assez simple, mais bon, qui reste fun à jouer. Les autres sont assez techniques, je trouve, dans l'ensemble. Dont la route du dragon.
Voilà, la route du dragon, très sympa, effectivement. Je suis d'accord avec toi. C'est une ambiance un peu
asiatique, quoi.
Asiatique, qu'on n'a pas l'habitude de retrouver d'ailleurs. Ouais, vrai que avec une belle tête de dragon, celle de Mario Galaxy, une route qui serpente beaucoup avec beaucoup d'antigravité. Bon, voilà, c'était bien. Il y a, pour les fans de F-Zero, il y a Butte City. Ouais. C'est vraiment du fanservice à fond les ballons.
Là, vous me donnez envie d'acheter le DLC là.
C'est normal.
Alors, Butte City, ça fait super plaisir parce que t'as plein de petits détails. Alors c'est pareil, on parlera un petit peu après du circuit d'Hyrule. T'as plein de petits détails où tu sens que c'est vraiment le fanservice à fond. Là par exemple, tu n'as pas une seule pièce sur le circuit.
Oui.
Donc t'as plein de boosters, t'as pas une seule pièce. Les pièces tu les récupères en passant sur les bandes qui permettent de recharger en fait l'énergie des cartes, enfin des vaisseaux dans F-Zero.
Ouais.
Donc quand tu passes sur la bande, ça fait cling 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 cling, t'accumules les pièces et puis après c'est bon.
Il y a énormément d'accélérateurs et tout le circuit est en antigravité.
Tout le circuit est en antigravité.
Non, mais
et tu as la bande de départ de, tu sais, que tu avais dans F-Zero GX, t'avais une bande en transparence pour marquer la ligne de départ. Mais là, t'as la même avec marqué F-Zero aussi dessus.
Et pour bien te rappeler qu'il n'y a toujours pas de F-Zero sur Wii.
Pour bien te rappeler ça. Mais voilà, c'est vraiment un circuit super sympa. Enfin, en tout cas, au niveau ambiance visuelle et sonore, c'est vraiment vraiment excellent. Le circuit en lui-même est très sympa aussi. Maintenant, là, tu sens quand même le fanservice très lourd, mais ça n'est rien comparé. Il y a un circuit qui n'a aucun intérêt, c'est Station Glagla, donc.
Ouais,
circuit un peu original et qui se déroule dans des tôtes de glace, j'ai pas compris. Moi,
c'est assez spécial. C'est pareil, il est très, très technique parce qu'il y a le sol, il y a plein de virages, c'est glissant et tout.
Il y a la double ellipse, enfin la double.
Ouais, il y a deux routes à chaque fois donc c'est dur de.
Tu peux passer de l'un à l'autre, c'est vrai que il est difficile, il est technique, il est intéressant.
Mais moi c'est une des courses où j'ai pour l'instant du mal encore à bien la maîtriser. Certains virages que j'arrive pas à bien passer, mais c'est original. C'est pas une de mes préférées du DLC, mais pourquoi pas.
Voilà, pourquoi pas. Et donc il y a le fan service ultime qui est le circuit Hyrule. Alors en même temps, c'était le DLC, c'était censé être le DLC Zelda, donc c'est vrai que voilà, il fallait. Ou là, là c'est, alors déjà c'est une excellente course, vraiment.
Je trouve pas moi. Je trouve que
tu trouves pas.
Dans le DLC, enfin en prenant en compte seulement le tracé de la course, je trouve que c'est pas l'une de mes préférées, non.
Mais moi, ça m'a rappelé en fait le monde château dans Diddy Kong Racing.
Ouais, je connais pas Diddy Kong Racing.
Alors Diddy Kong Racing, t'as un monde qui s'appelle monde château, je sais pas.
C'est pas le truc avec la lave et tout là, non?
Ouais, il y en a un avec la. Non, attends, ça c'est le volcan. C'est Hop Top Volcano, mais je sais pas si c'est celui-là. Moi, ça m'a rappelé ça. C'est-à-dire que t'as des passages en intérieur dans un château, puis t'as des passages sur l'herbe, et t'as. Je sais pas si t'as vu, t'as un des. Alors, les boosters tourbillonnants, justement, sont des diamants de Zelda, c'est-à-dire les diamants que tu actives avec des flèches et tout ça. Et quand t'actives le dernier dans le couloir, en fait, t'actives. La Master Sword, tu passes au travers et ça te fait un autre tourbillon. Voilà, je le trouve très rigolo pour ça, parce qu'il y a plein de détails comme ça qui sont marrants.
Voilà, visuellement et pour le fan service, je le trouvais excellent parce que tous les clins d'œil et puis ce que t'as dit, donc les pièces qui sont remplacées par les rubis et
les roupies, c'est la monnaie indienne.
Et le thème musical aussi qui est super, en fait. Ouais. Mais c'est le tracé que je trouve assez moyen, puis le circuit est un peu court, mais sinon visuellement et pour le fan service c'est top quoi. On sent qu'il a été soigné, ils se sont fait plaisir à mettre plein de petits clins d'œil à l'univers de Zelda dedans et bon, il reste quand même très très sympa à faire.
Voilà, donc on a fait le tour à peu près de tous les circuits, donc effectivement globalement il y a quand même beaucoup de fanservice, je maintiens, c'est vrai qu'il fallait absolument le vendre, je pense. Maintenant moi personnellement je trouve qu'on en a pour son argent, ce qui est quand même le plus important quand on achète du contenu dématérialisé en supplément d'un jeu, sachant qu'on pourra jamais être remboursé, jamais, enfin voilà,
on sent que c'est pas un DLC qui a été fait à l'arrache comme ça pour gagner de l'argent facilement quoi.
Enfin, et surtout vu la date de sortie du DLC et la date de sortie annoncée, c'était peut-être prévu lors du développement, mais ça a clairement pas été commencé à ce moment là ça a été commencé un peu après. Est-ce qu'il faut craquer je sais pas, Kaliken, maintenant que tu nous en as entendu parler.
Franchement, je crois que je vais me le prendre ce soir ou les prochains jours, parce que vous m'avez donné envie.
Voilà, bon bah c'est bien, du coup on t'a donné envie. Bon, Gozo, je suis en train de craquer, mais est-ce que tu considères qu'il faut craquer?
Moi oui, sauf si pour vraiment ceux qui ont pas aimé ce Mario Kart, mais ils sont très très rares, enfin il est très peu nombreux. Je pense que ceux qui ont aimé, la plupart l'ont déjà acheté ou comptent le faire, quoi. Pour moi, je regrette pas du tout mon achat.
D'accord, bon, moi je vais vous dire, faites ce que vous voulez, de toute façon. non, mais je pense que ça vaut le coup. Enfin, le comptablement, c'est vraiment juste d'un point de vue quantitatif, ça vaut le coup. C'est vrai que les circuits rétro, il y a le circuit Yoshi qui est très bien, il y a le Mini Wario qui est très bien.
Ouais.
Voilà, bon, je suis un peu plus partagé sur le choix des circuits. Autant effectivement les nouveaux véhicules. Nouveau personnage, c'est pas extraordinaire. Nouveau véhicule, c'est plutôt sympa. Les nouveaux circuits, il y en a des vraiment très bien. Et puis, il y a du moyen.
Il y a les trois quarts hein, des circuits, je trouve qu'ils sont bien. Ils sont bien, quoi. Il y a quelques-uns un peu moins bien, mais dans la majorité sont quand même des bons circuits, je trouve.
Je me dis que pour un premier DLC, pour le prix, c'est quand même pas inintéressant. Maintenant, j'espère très sincèrement que le deuxième va améliorer un petit peu la qualité des circuits au moins, parce que je me dis qu'il y a 2-3 trucs, c'est quand même un petit peu, voilà. Mais c'est vraiment couper les cheveux en quatre, hein, très honnêtement. C'est vraiment pour faire chier, quoi.
Et pour ceux qui jouent en ligne, c'est le fait d'avoir des nouveaux circuits, c'est vrai que ça relance complètement, parce que moi je sais que j'avais arrêté parce que bon, à force tu tournes en rond au niveau des courses, parce que tu retrouves toujours les mêmes. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de nouveaux circuits comme ça, mine de rien, ça relance vachement l'intérêt.
Bon, en tout cas, ça donne envie. J'espère juste qu'ils vont pas tomber dans la facilité avec les DLC, quoi.
Ouais, voilà.
Ah ouais, mais j'espère qu'on aura pas de season pass.
J'ai
pas l'impression. Enfin, jusqu'à présent, ils en ont fait sur quelques jeux. Je crois qu'il y avait Mario Golf World Tour où il y avait un season pass dès la sortie du jeu. Ouais. J'ai pas l'impression que ça ait super marché.
Tant mieux, j'ai envie de dire.
Alors Mario Golf World Tour est un excellent jeu. Enfin moi je suis en train de le décalquer dans tous les sens, donc je peux vous le dire, c'est vraiment de la balle. Mais j'ai pas acheté le Season Pass. Quoi. Ouais. Peut-être que j'achèterai les DLC parce que effectivement c'est pareil, le rapport qualité-trou, on va dire, est pas trop mal. Mais voilà, j'ai l'impression que le côté Season Pass, c'est pas trop marché. Je me suis dit pendant un moment, Nintendo est un peu en train de chercher son modèle.
C'est peut-être pour ça que avec Mario Kart 8, ils ont essayé de faire un autre truc où là le DLC était vraiment pas cher et avec beaucoup de contenu. Parce qu'ils ont peut-être vu qu'avec Mario Golf, comment
Mario
il s'appelle
Golf, Fire Emblem aussi, il y avait eu des tentatives qui étaient
Peut-être que ça a pas si bien marché que ça et qu'ils essayent
Sincèrement, je pense qu'ils cherchent le modèle. Hein. Le fait que New Super Luigi U soit sorti à la fois en démat et en matérialisé, ça devait être un test aussi. Hein.
Oui, oui.
C'est-à-dire, si on vend 30 euros en disque physique et 20 euros en dématérialisé, est-ce que ça marche? Oui, non. Bon, voilà, on fait les comptes des ventes. Puis on se dit, bon, ok, donc il faut faire peut-être moins de contenu, mais un petit peu moins cher, mais en dématérialisé. Et voilà, c'est savoir ce que les gens attendent. C'est-à-dire, quand t'achètes du contenu dématérialisé, je pense que ce que t'attends, c'est avant tout du prix. C'est-à-dire que tu t'attends à pas payer très cher. Voilà. C'est un avis personnel, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça. C'est-à-dire que si les promos Steam, ça marche bien, c'est parce que justement, tu payes les jeux pas cher. C'est-à-dire que t'acceptes de payer du dématérialisé à condition que ce soit pas cher.
Oui, oui.
Si tu te fais entuber, finalement, tu te fais entuber de 5-6 euros, c'est pas trop grave.
Ouais.
C'est une impression personnelle, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont cherché le modèle et que ce qui est ressorti, je pense, des différents tests qui ont été pratiqués, Fire Emblem, New Super Luigi U, le Season Pass de Mario Golf World Tour et ainsi de suite. Voilà. Ce qui a dû ressortir, c'est ça. C'est du DLC, on peut en faire. Maintenant, il faut que ça reste pas trop cher. Sinon, on n'y arrive pas. Mais un jour, il faudra peut-être poser la question. Un jour, on ira poser la question à Reggie Fils-Aimé en personne.
D'accord.
C'est intéressant.
Qui nous botte le cul.
Je me mets au défi d'aller le faire. Bref, on va faire une deuxième pause musicale, parce qu'on parle depuis un petit moment aussi. Donc, c'est toujours du Majora's Mask.
Parce qu'on n'a pas abordé encore Majora's Mask.
On va faire ça assez rapidement, parce que de toute façon, on aura le temps d'en reparler, donc c'est vraiment histoire d'aborder quelques petites thématiques un petit peu emblématiques de ce jeu-là. Je pourrais en parler pendant des heures, donc
pareil.
De toute façon, il faut essayer de cadrer un petit peu, sinon on n'y arrive pas. Voilà, donc on se retrouve dans un tout petit peu plus de 5 minutes, c'est le morceau qui s'appelle Majora's Wrath, qui est imprononçable pour un français.
Majora's Wrath.
Donc c'est la musique en fait qu'il y a pour les boss, hein, tout simplement. Et donc toujours pareil, c'est la version orchestrale de 2002. Et voilà, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 5 minutes, à tout de suite. Voilà, de retour.
Tour.
Ça y est, ils sont attaqués. Tout le monde s'est bien échauffé pendant la petite pause musicale. Voilà, donc, alors durant la petite pause musicale, on a discuté de plein de choses, parce que Majora's Mask, dès qu'on me lance dessus, je suis sûr que Kaliken, c'est pareil. Dès qu'on le lance dessus, il peut parler des heures.
Donc, il y a des jeux comme ça.
Il y a des jeux comme ça qui, voilà, quand on a des fans hardcore, on peut pas faire autrement. Donc, je vais essayer de pas gâcher le jeu pour les gens qui n'y auraient pas joué.
C'est ça qui est difficile, là. On va faire un numéro d'équilibriste assez ouf.
C'est pas évident. Maintenant, je pense qu'on gâche pas forcément. Parce que, de toute façon, même si on vous donne quelques éléments, soit des éléments de compréhension, des éléments d'interprétation, des choses comme ça, je pense que de toute façon, il y a tellement de choses dans ce jeu que même si on donne quelques grosses lignes qui permettent de comprendre certaines choses, quelques clés de compréhension, de toute façon, il y aura toujours des...
Mais limite, j'ai envie de dire, même si on expliquait tout, ça fait rien tant qu'on n'a pas joué au jeu, quoi.
Mais je pense que ça fait rien, et... les deux, trois théories dont on va parler là, parce qu'on va parler des théories de fans sur Majora's Mask, parce que ça fait partie des choses très intéressantes sur le jeu. Moi, si on me les avait expliquées avant de jouer, il y a des choses que j'aurais essayé de faire différemment. Il y a vraiment des choses que j'aurais essayé de comprendre différemment. Ou de jouer différemment. Donc, je vais vous exposer quelques-unes.
Bah oui, ça m'intéresse, parce que du coup, on est vraiment C'est vraiment tout neuf par rapport à ça, quoi.
Voilà. Non. Voilà, je précise que normalement, Gueuseux chez Kaliken n'ont jamais entendu parler de cette théorie.
Bah, non, non.
Voilà. On va essayer. Voilà. Moi, ça fait quand même des années que je suis ça, pour notamment sur Reddit, où il y a beaucoup de fans de Majora's Mask, anglophones principalement, mais qui essayent très régulièrement de réinterpréter les choses, d'essayer de comprendre ce qui est, par exemple, d'essayer de comprendre qui est Skull Kid. C'est quelque chose d'étonnant, mais vous allez voir que Skull Kid, il y a vraiment des interprétations très 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 intéressantes de Skull Kid. Bon, on va pas s'étaler plus que ça, parce que sinon, moi je vais pas m'arrêter.
Sinon, on en a pour 3 jours.
On en a pour 3-4 jours de Jobar.
3 jours, juste 3 jours.
Voilà. Ouais, mais alors là, moi je peux pas, parce que tu vois, la bande sur laquelle on enregistre fait que 3 heures. Donc, de toute façon. Voilà. On va pas rappeler le principe du jeu, tout ça, vraiment. Je vais partir du principe que soit vous savez dans les grandes lignes le principe du jeu, je parle pour nos auditeurs, bien sûr. Les gens dans le studio sont des gens très intelligents, donc ils savent.
Bien sûr.
Voilà, tout à fait. Donc on va parler de deux théories essentiellement. La théorie des cinq phases du deuil, qui colle un petit peu à Majora's Mask. Et la deuxième théorie, c'est celle qui concerne Skull Kid, donc une des interprétations de l'origine possible de Skull Kid. Voilà. Alors les cinq phases du deuil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc de psychologie ou de psychiatrie, je sais pas. Voilà, quand une personne qui est proche de toi meurt, il y a à peu près cinq phases. Il y a le déni, c'est-à-dire non, c'est pas possible, il est pas vraiment mort. Il y a la colère, c'est-à-dire que la réaction qui consiste à dire, une réaction de colère, quoi, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment mort et on a une sensation de colère. Il y a le marchandage, c'est genre pourquoi lui, pourquoi pas moi. Partie de.
Ouais.
Il y a la dépression, c'est-à-dire le fait qu'à un moment, tu te rends compte que le mec est vraiment mort et que tu pourras rien y faire. Donc c'est la phase de. Voilà. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'acceptation, c'est-à-dire le fait que ça y est, t'as admis que le mec était mort, et puis il est mort, et point très. Voilà.
Ok.
Tu peux retrouver plein de thématiques là-dessus, si ça vous intéresse, amis auditeurs, vous pouvez aller regarder, il y a plein de films qui parlent justement de ces cinq étapes du deuil, c'est-à-dire que, entre le moment où la personne meurt, on apprend la mort d'une personne, et le moment où on a accepté la mort d'une personne, tout le monde passe par ces phases-là. C'est plus ou moins long, c'est plus ou moins caché, masqué, mais tout le monde passe par ces phases-là.
Ça me rappelle, je fais une toute petite parenthèse, j'avais vu un film d'animation assez rapide là-dessus. En fait, c'était une girafe qui tombait dans un espèce de marécage et qui glissait petit à petit. Donc, elle passait par les cinq phases. Et donc, jusqu'à arriver à l'acceptation. Et en fait, à la fin, elle se rend compte qu'avec son coup, elle survit. Et donc, il y avait une sixième phase. Enfin, c'est assez marrant, mais je sais plus où est le truc.
Voilà, mais je pense que ce truc-là est assez connu. Si vous voulez aller regardez les cinq phases du deuil. Vous trouvez plein de littérature là-dessus, il n'y a pas de souci. Et donc, l'idée, c'est que le monde de Majora's Mask, Termina, représente en réalité les cinq phases du deuil. C'est-à-dire que pour clocher, il y a les habitants qui continuent à préparer le carnaval, même si la lune les menace de plus en plus, même si elle se rapproche de plus en plus. Tous les jours, tu vas demander aux habitants, ils disent « la lune est de plus en plus près, mais bon, franchement, on continue le carnaval, tout va bien. » Donc là, on est vraiment dans le déni. Les Mojo, qui cherchent absolument à trouver un coupable pour la disparition de la princesse, on est dans la colère. C'est-à-dire qu'effectivement, le roi Mojo, il arrête pas de se foutre en rogne, de taper du bâton sur son trône, il a de la fumée qui lui sort des oreilles, enfin voilà, il est vraiment dans la colère. Les Gorons, qui cherche à rester désespérément, enfin Darmani, le chef Goron, qui cherche à rester désespérément le plus possible en vie, on est dans le marchandage, c'est-à-dire qu'il dit « Ah ouais, mais attends, si tu me donnais ton masque, peut-être que je pourrais arriver à vivre plus longtemps. » Enfin, il y a plein de choses dans le royaume Goron qui font penser à ça. Les auras sont clairement dans la dépression, puisqu'il y a la chanteuse qui reste enfermée parce que ses œufs ont disparu. Tout le monde est super triste parce que leur chanteur est mort. Ils tirent tous des gueules de 3 pieds de long dans le monde des auras. Et enfin, la vallée Ikana, ça représente... La vallée Ikana, c'est la vallée de la mort, donc le dernier niveau du jeu, la dernière grande zone du jeu, où le roi mort-vivant, finalement, accepte sa propre mort. On est dans l'acceptation. L'interprétation des cinq phases de la mort dans Zelda, c'est ça.
Et même, en fait, quand t'as dit le mot de la plaine Termina, déjà, le mot Termina...
Oui, c'est ce que j'ai pensé. Déjà, quand tu penses à Termina, t'as... Enfin, de toute façon, le jeu est connu pour avoir un univers très sombre, donc quelque part ça permet de coller aussi à ta théorie, c'est qu'on baigne vraiment dans une ambiance très très sombre, ouais. Que... En fait, c'est pas impossible que cette théorie soit...
Ça reste une théorie de fan, donc c'est vrai que c'est soumis à interprétation. Mais là, je vous l'ai dit comme ça, d'un trait, c'est vrai que la première réaction, c'était « Waouh !»
Mais
effectivement, putain, c'est exactement ça.
C'est vrai que du coup, la prochaine fois que je fais le jeu, quand il va ressortir du coup sur 3DS... Bah,
tu vas pas le voir de la même manière.
Ouais, ouais, j'aurais cette interprétation en tête et j'y penserai à tous les dialogues et à tout pendant tout le jeu, quoi.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Kaliken, par exemple, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la théorie en elle-même? Est-ce que tu trouves que ça colle? Est-ce que tu trouves que c'est exagéré? Ou est-ce
Alors,
que finalement.
Il faudrait que j'y rejoue, mais quand tu l'as redit, si je ne m'abuse, en plus, c'est dans l'ordre, tout ça.
C'est exactement dans l'ordre.
Voilà, donc c'est quand même une sacrée coïncidence. Et ensuite, il faudra vraiment que j'y rejoue, mais ça me paraît assez logique. Donc est-ce que derrière il n'y a pas quelqu'un, un scénariste qui a vraiment planché là-dessus? Parce que avec des interprétations tu peux dire beaucoup de choses, mais là ça me paraît quand même assez ouf, quoi.
C'est assez frappant, parce qu'effectivement, alors moi j'ai fait le jeu sans me rendre compte de ça, puisque je l'ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune, donc voilà, je m'étais jamais rendu compte de ce truc là et c'est vrai que Quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, mais merde, c'est vrai que ça colle vachement bien. J'ai refait un morceau de jeu en me disant, non, c'est un peu exagéré.
Mais d'autant plus que les personnages sont, comme tu le dis, vachement moins stéréotypés que dans Ocarina of Time, où, par exemple, c'est vrai que tous les persos sont assez bizarres. Les Gorons, ils sont pas comme ceux que tu vois dans Ocarina. Majora's Mask, en fait, tu récupères le masque du mec qui est mort, si je ne m'abuse.
Tout à fait, mais de toute façon, tous les masques que tu récupères sont des masques de mecs morts aussi.
Ouais, donc ambiance déjà.
Ambiance, tu vois.
Ah non, c'est vrai que cette interprétation, elle est loin, à mon avis, elle est loin d'être fausse.
Mogueuse, je vais pas te demander, enfin, je peux trop demander ton avis, mais comme tu l'as déjà un petit peu donné, je vais pas insister là-dessus. Du coup, il y a une théorie un petit peu. On va dire un compagnon de cette théorie-là qui traîne, on la doit à Matthew Patrick, qui est le mec qui est derrière la chaîne YouTube Game Theory, que j'aimerais bien vous recommander, mais ça devient de plus en plus de la merde, donc je vous la recommande pas, mais vous pouvez regarder les vieux épisodes, c'était très bien. Matthew Patrick qui disait, oui, alors déjà il y a les 5 phases de la mort, et en plus, on pourrait voir Termina, donc ce monde alternatif, comme le fait que Link est en train de mourir. C'est-à-dire que finalement, c'est. Lui, son idée derrière, c'était de dire en réalité, Link est dans une espèce de coma, il est en train de mourir et on est en train de vivre son rêve, et en fait dans son rêve il accepte sa propre mort, et ça colle relativement bien à la fin en fait du jeu, même si à la fin on sauve le monde, enfin comme d'habitude quoi. Finalement il y a le côté un petit peu je sais pas comment dire, mais bittersweet quoi. Je connais pas le mot français pour ça, je suis désolé. La fin est un petit peu douce amère finalement, parce que ben certes il a sauvé le monde, mais au final ben, tous les mecs qui étaient morts ils sont toujours morts, et puis il a peut-être sauvé le monde, mais enfin les mecs ils sont toujours tous dépressifs quoi, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça c'était la première théorie dont je voulais vous parler. Je constate que ça vous a bien scotché.
Ah j'avoue, ouais. Okay. C'est bluffant quoi.
C'est bien. Donc je vais enchaîner sur la deuxième assez rapidement. La deuxième concerne l'origine de Skull Kid. Alors l'origine de Skull Kid, il y en a beaucoup. J'avais lu une théorie très intéressante, enfin un mec qui expliquait sur un forum, je sais plus lequel, qui disait que Skull Kid était le méchant de jeu vidéo qui l'avait toujours fait le plus flipper, parce qu'il avait aucune motivation particulière. C'était le mal absolu finalement.
Attends. Sans dire de bêtises, Skull Kid, tu le vois déjà dans Ocarina of Time.
Tu le vois déjà dans Ocarina of Time.
Mais il n'a pas du tout ce rôle important.
Tout à fait. Alors d'où la deuxième théorie, intéressante aussi. C'est-à-dire qu'il y a une théorie qui dit, bah, en réalité, Skull Kid est mort dans les bois perdus.
Ouais.
En réalité, le Skull Kid d'Ocarina of Time est mort dans les bois perdus. Effectivement, tu le croises dans les bois perdus. Mais il refuse de mourir, et donc il reste dans les limbes, dans une espèce de phase entre la vie et la mort. Il arrive à entraîner Link avec lui, et en réalité, Termina est une sorte de purgatoire.
C'est-à-dire donc ça corrobore avec l'idée que Link serait dans le coma.
Que Link serait mort ou dans le coma, donc ça corrobore avec ce truc-là, mais le Termina serait un purgatoire qui serait constitué des souvenirs de Link. C'est pour ça que t'as énormément de ressemblances et à la fois énormément de différences. Alors, je sais pas ce que vous pensez de celle-là.
Si, si, ouais, c'est vrai. C'est pareil. Ouais. Une théorie qui tient. Qui a l'air de tenir. Moi, c'est vrai que ça fait un peu. Je pense pas que ce soit une coïncidence de ce que tu as dit là, même le mix des deux théories, ça donne vraiment l'impression que ça a été pensé pour que ça soit.
Et puis même le début de Majora's qui s'enfonce dans une forêt, ça fait un couloir vers la mort.
Et en plus, il reste assez flou parce qu'il dit qu'il va rejoindre un vieil ami et sans jamais dire qui c'est. Alors certains, ça j'ai vu que ça serait la fée Navi en fait qui l'irait rejoindre. Et d'autres en d'autres théories quoi sur le personnage au tout début du jeu qui est censé aller rejoindre. Je sais pas si tu t'en souviens Mortal, parce que moi ça fait un moment que j'ai pas refait le jeu donc
on te le dit qu'il va rejoindre effectivement.
Voilà, c'est ça. Parce que donc dès le début, on a l'impression en fait que le jeu préserve un certain flou pour un peu que chaque joueur se fasse un peu des ses propres théories sur où est-ce qu'il va et ce qui se passe vraiment il y a l'air d'avoir plusieurs niveaux de lecture mais ça a l'air d'être intelligent en fait comme façon de...
Alors, le jeu de toute façon a un nombre de niveaux de lecture qui est juste complètement fou et plus t'en lis dessus plus tu te dis que c'est vraiment craqué. Il y a un petit corollaire à cette théorie là qui est pas inintéressante, c'est que finalement ça ressemble énormément au livre Alice au Pays des Merveilles. Je parle bien de l'original, je parle pas de l'autre côté du miroir. Pour les gens qui n'ont vu que le film de Disney, je chie sur le film de Disney, c'est de la grosse merde. Donc allez lire le bouquin, c'est pas long du tout. Je vous recommande les deux, Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté du miroir. Vous allez voir que les similitudes avec Majora's Mask sont aussi extrêmement étonnantes. Notamment le début, où finalement le personnage principal passe dans un monde parallèle suite à une chute. C'est exactement ce qui se passe pour Link. En suivant un individu, on va dire peu recommandable, c'était le lapin blanc pour Alice, et là c'est Skull Kid pour Link. Mais on retrouve un début qui ressemble énormément au début d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a tout un tas de détails là-dedans aussi, puisqu'Alice au Pays des Merveilles, on est exactement dans le même genre d'histoire finalement. Ouais. C'est Alice qui rêve, et elle rêve d'un monde qui ressemble beaucoup au sien, mais qui est un petit peu différent. Voilà, donc on est là-dedans. À l'origine, dans l'œuvre de Lewis Carroll, c'était une métaphore de la mort aussi, c'est-à-dire que Alice en réalité devait être sur son lit d'hôpital et devait être en train de mourir, et ça devait être son dernier rêve. Ça a été changé parce qu'il voulait faire un livre pour enfants, mais l'origine du truc c'était ça. C'est très étonnant à quel point ça colle à cette
petite théorie. Et là je repense à un truc qui a peut-être pas forcément de lien, mais moi je me souviens quand j'avais joué à Majora's Mask, dès que tu te retrouves dans la plaine de Termina, c'est le thème des premiers Zelda qui revient, celui qui manquait justement dans Ocarina of Time.
Tout à fait.
Et ça, justement, ça m'avait frappé parce qu'il y avait un côté, on retombe sur nos pattes. Et est-ce que là aussi, il n'y a pas une signification à ça?
Oui, genre un souvenir très lointain.
Voilà.
Que Termina représenterait un souvenir très lointain, par exemple.
Peut-être, ouais.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? À nous de faire nos propres théories derrière, mais c'est vrai que pourquoi pas? C'est vrai qu'effectivement,
c'est théorie, sérieusement.
Moi, je trouve que ces deux-là, pour moi, c'est les plus intéressantes parce que bon, elles sont à la portée de tout le monde, même les gens qui ont un très vague souvenir du jeu. C'est le cas de Gezush qui nous a dit en début d'émission, enfin en antenne que.
Je l'ai pas refait depuis à l'époque quand il est sorti. Je l'avais fait, je l'avais adoré, mais depuis, je l'ai pas refait. Donc ça fait plus de 10 ans.
Ça fait un bon moment.
Ouais.
Donc effectivement voilà, donc c'était les deux théories que je voulais vous exposer. Je constate que ça vous a bien scotché.
Oui.
Voilà, donc les cinq passes du deuil et donc l'origine de Skull Kid. Alors l'origine de Skull Kid, voilà, comme vous l'avez vu, c'est un petit peu, il y a beaucoup de gens qui penchent sur le côté Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai que les similitudes en termes d'écriture, donc Link qui poursuit un individu qui finit par tomber dans un trou et la chute inexorable l'entraîne dans une espèce de monde parallèle, c'est vrai que ça fait très Alice au Pays des Merveilles sur le début. Et l'idée du purgatoire, c'est-à-dire que finalement, on est toujours dans l'idée que Link, en réalité, est en train de mourir, ou est mort, et finalement est en train d'accepter sa propre mort. Mais je trouvais que c'était intéressant, parce que, effectivement, ça permet d'expliquer ce monde parallèle, finalement, très bizarre, très, très malsain, très
et
étrange, ça permet
spoiler,
de l'expliquer. Et
sans spoiler, un monde sans aucune trace, si je ne m'abuse, de Ganondorf.
Un monde sans aucune trace de Ganondorf.
Donc ça aussi, ça peut... Parce que, généralement, il est pratiquement dans tous les Zelda. À part celui-là.
À part celui-là et Link's Awakening, si je dis pas de bêtises.
Oui, et Link's Awakening qui est un rêve. Donc,
qui est un rêve aussi. D'ailleurs, Kelly, tu me disais en antenne que c'est le même scénariste qui avait fait Link's Awakening.
C'est moi. Mais ouais, c'est Koizumi en fait. Mais Koizumi, il était le scénariste de Link's Awakening. Mais sur Majora's Mask, il est co-directeur avec Aonuma. C'est le premier Zelda. dans Aonuma s'est occupé. Alors maintenant aujourd'hui c'est le grand Manitou en fait des Zelda quoi, que c'est lui qui chapeaute un peu tous les Zelda, et c'était son premier. Et donc Koizumi a écrit le scénario de Link's Awakening, qui est connu déjà comme étant l'un des Zelda avec le scénario le plus développé. Et je sais pas si c'est lui aussi qui s'est occupé de Majora's Mask, mais au niveau du scénario, ça m'étonnerait pas qu'il ait donné quelques idées.
Étant donné tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, ça m'étonnerait effectivement pas qu'il ait mis son petit grain de sel là-dedans. Ce qui est très curieux en fait avec Majora's Mask, c'est ce qu'on disait un petit peu en antenne au début, c'est que pour que toutes ces théories soient des coïncidences, ça ferait beaucoup de coïncidences.
C'est ça. Ouais.
Je me rendrai compte quand je vais refaire le jeu là, quand il va sortir sur 3DS, le remake. C'est sûr que je garderai en tête à chaque fois ces théories, et moi je me ferai ma propre idée pour voir si est-ce que c'est un peu gros, ou est-ce que en effet il y a trop de coïncidences pour que ce soit un hasard quoi.
Moi, il me tarde de le refaire justement. Le seul petit bémol que j'avais, c'est que j'espère juste qu'il soit aussi immersif sur console portable que sur console de salon.
Alors, très honnêtement, je pense que ça va même peut-être être un tout petit peu meilleur pour une raison très simple, c'est que vous gardez, enfin, je sais pas, que Kaliken, tu l'avais fait au moment de sa sortie, tu l'as pas refait depuis non plus.
J'ai dû y rejouer un petit peu plus récemment que Zosh, mais genre il y a 5-6 ans, toi, histoire de me le refaire, mais ça fait quand même pas mal de temps que j'y ai pas joué. Quoi.
Voilà, sur N64, le jeu il ramait, il y avait du brouillard, il y avait.
Donc, ceci dit, c'était un des premiers jeux avec l'Expansion Pack.
Un des derniers jeux avec l'Expansion Pack.
c'est la même chose finalement.
Il n'y en a pas eu beaucoup.
Il n'y en a pas eu beaucoup où l'Expansion Pack était obligatoire, celui-là en faisait partie. Mais c'est vrai que je dis pas que c'est difficile d'y rejouer sur N64 parce que on avait un peu l'habitude à l'époque, et puis bon, c'est pas trop grave, mais c'est vrai que le framerate est quand même pas extraordinairement constant, il y a plein d'endroits où ça rame à mort. Donc je pense qu'en termes d'expérience de jeu, le remake va probablement gommer tous ces défauts-là, comme Ocarina of Time 3D est un excellent remake d'Ocarina of Time, parce que on fait du 60 FPS en continu quasiment. Et puis le jeu est un petit peu lissé, il fait un petit peu moins mal aux yeux, il y a une bonne distance d'affichage.
D'ailleurs, on en parlait un peu justement lors d'un podcast DS in Paris. Le Ocarina of Time était très bon, mais là ils ont eu encore plus de temps pour le développer, Majora's Mask. Ils sont dessus depuis un an, je crois.
Ouais, ils sont plus dessus d'un depuis, an. Depuis la sortie d'Ocarina of Time.
Oui, donc voilà.
Depuis un an et demi quasiment. Alors après, je sais pas ce que ça veut dire être dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont juste lancé l'idée et puis qu'ils ont vraiment commencé à s'y mettre il y a 6 mois, enfin,
quand tu vois déjà les images, les comparos avec la version N64, je trouve qu'il est vraiment vraiment beau. Apparemment, il y aurait, j'ai entendu dire, il y aurait des features en plus pour la version New 3DS. Donc, je pense qu'ils ont vraiment bossé dessus. C'est un avis perso. Mais...
Ouais, bah, je pense aussi hein, que de toute façon, ils n'ont pas l'habitude. Les remakes sont souvent de qualité. Que ce soit Ocarina of Time 3D ou Wind Waker HD sur Wii U, à chaque fois, les remakes ont été soignés, quoi. Les remakes de Zelda, ils se sont appliqués pour pas faire.
En même temps, il n'y en a pas eu beaucoup. On va en être au troisième, là.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça a intérêt à être soigné. Enfin, je pense que je prendrais beaucoup, beaucoup de plaisir à le refaire. Je sais pas si je referais le run que j'ai fait à l'époque sur N64, parce que je sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai fait un 100%. J'ai fait une partie de Majora's Mask dans ma vie, je l'ai fait à 100%, c'est-à-dire je finis tout. Il y a un quart de cœur que j'ai jamais réussi à choper. C'est la deuxième course dans l'eau avec le Zora. J'ai jamais réussi à battre le record de je sais pas quoi, donc jamais. Il y a un quart de cœur qui me manque. C'est le seul truc qui me manque.
C'est genre de truc qui rend dingue.
C'est genre de truc qui te rend complètement dingue. Et surtout, j'ai regardé le compteur de temps en fait que j'ai passé sur le jeu. Je devais être à 170 heures.
Ouais, quand même.
Ah ouais. Mais en fait, c'est ça. C'est le jeu. Il a tellement une ambiance que t'es bien dedans. Moi des fois je refaisais le cycle, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est un cycle de 3 jours en fait, continuel, un peu comme le film, je sais pas si vous vous souvenez, un jour sans fin là,
un jour sans fin, c'est
avec Bill Murray.
Exact.
Et voilà, moi je kiffais juste voir la vie des personnages, me mettre dans une maison, regarder, et il y a un côté contemplatif dans le jeu qui est exceptionnel, quoi. C'est vraiment dingue. C'est pour ça qu'on peut perdre des heures et des heures à même pas jouer au jeu, mais vraiment rester dedans, quoi. Juste voir ce qui se passe. Parce que c'est limite un film, en fait.
Il y a des passages qui font effectivement penser à... T'as une vraie vie dans ce monde-là, contrairement au Ocarina of Time, qui finalement est... quand il rejoint un petit peu avec le recul, tu te rends compte que c'est assez vide, en fait.
Ouais.
Comme monde. Surtout comparé à Majora's Mask, qui est, je veux dire, le
plus
clocher,
c'est extraordinaire. Mais là, chacun a sa vie sur 3 jours, que c'est un truc de fou, et tu peux influencer ces personnages, en sachant que lui, il va falloir intervenir tel jour, et il lui manque quelque chose, et que tout est lié, en fait. C'est pour ça qu'il est génial aussi.
Et la comparaison avec Un jour sans fin est rigolote, d'ailleurs, parce que dans le film Un jour sans fin, l'objectif, finalement, du héros, c'est d'arriver à faire la journée parfaite. C'est ce qu'il arrive à faire à la fin, c'est-à-dire que la dernière boucle de journée qu'il fait, en réalité, il fait la journée absolument parfaite, dans laquelle il arrive à sauver machin, à empêcher truc de se faire éclabousser.
Il apprend voilà. Le piano et tout, ouais. Il est génial, ce film, d'ailleurs.
Il fait la journée parfaite qu'il aurait dû faire depuis le début, et le masque des amoureux, qui est le masque le plus difficile à avoir dans Majora's Mask, mm-hmm. ça correspond quasiment à cette quête-là, c'est-à-dire que peut-être pas toutes les heures, mais je veux dire, c'est tous les jours, t'as 5 ou 6 personnages avec lesquels tu dois faire une interaction bien précise, un moment bien précis, si tu veux arriver à la fin du dernier jour, à récupérer le masque des amoureux. C'est celui qui met le plus de temps, c'est
Link,
plus
en fait,
il ressemble vraiment à ça. Ça ressemble vraiment à une quête où tu fais le jour parfait, quoi.
Il prend un rôle d'ange gardien, un peu, dans ce truc.
Ce qui corrobore un peu, tu commences à en faire, aussi. C'est horrible, hein. On peut pas s'arrêter.
On est rentré dans un délire, là, c'est ouf.
Voilà, donc bon, c'était intéressant. Je pense qu'on en reparlera, de toute façon, pour la sortie du jeu. On fera peut-être le vrai spécial Majora's Mask qu'on avait prévu à l'origine. Avec Oscar, on s'était dit, on va essayer de faire un truc dans lequel on va faire une première partie d'émission où on explique pourquoi est-ce qu'il faut jouer à Majora's Mask. Donc on essaie d'expliquer aux gens qui n'ont jamais joué pourquoi est-ce que ce jeu est génial. Et une deuxième partie où, entre fans, on peut commencer à se dire, voilà, qu'est-ce qui nous a vraiment plu dans ce jeu, essayer de s'expliquer un petit peu.
Parce que, outre tout ce que tu as dit, toutes les théories, enfin, d'un point de vue très simple, c'est un excellent jeu techniquement et au niveau du scénario, c'est ouf, quoi. Enfin, de base, c'est un très bon jeu qui, en plus, peut avoir des interprétations multiples. Mais c'est vrai que c'est.
Et je pense que c'est un des Zelda qui est culte, mais qui a aussi été l'un des moins joués, vu qu'il est sorti en fin de vie de la.
Et puis il était dans l'ombre d'Ocarina of Time. Quand tu parles de Zelda sur 64, tu penses forcément à Ocarina of Time, et pas forcément, un peu moins à Majora's.
Oui, oui.
Ouais, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, ça l'a peut-être un petit peu desservi. Maintenant, comme toutes les œuvres un petit peu originales, je pense qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas accroché, tout bêtement. C'est vrai que quand tu regardes un peu froidement, Majora's Mask, t'as 4 temples, en gros. 4 temples plus un boss final un petit peu particulier, mais je vais pas en dire plus parce que là par contre ce serait vraiment du spoil.
Et un Link qui reste petit pratiquement tout le
voilà,
petit.
C'est vrai que je comprends qu'il y ait des gens que ça ait rebuté, c'est effectivement les gens qui l'ont fait en ligne droite sans chercher à réfléchir, à faire les quêtes des masques. Finalement, c'est un petit peu comme Wind Waker, je trouve que les similitudes avec Wind Waker sont assez frappantes d'un point de vue déroulement du jeu, en tout cas. C'est Wind Waker, si tu le fais en ligne droite, ça te prend peut-être une douzaine d'heures et encore, tu rates 70% du jeu. Là, c'est vraiment le jeu où il faut faire les quêtes annexes, et il faut aller fouiller, il faut aller chercher, il faut vraiment tout expérimenter. On peut pas, surtout qu'avec ce cycle de 3 jours, il y a effectivement des choses très 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 étonnantes à faire. Voilà, tu peux aller suivre un personnage qui va au bureau de poste le matin du premier jour, puis qui va aller faire ça, puis qui va aller faire ça, puis qui va aller faire ça. Voilà, tous les personnages ont une vie. Et ça fait aussi partie de l'intérêt du jeu.
Et quand tu réfléchis à l'époque, c'était quand même révolutionnaire, parce qu'il y en a pas beaucoup des jeux qui permettaient ça.
Bah, déjà, Ocarina of Time déjà avait été révolutionnaire dans son gameplay. Dans son gameplay, oui, en jour-nuit, puis même tellement de choses, la visée Z au niveau du gameplay.
Oui, c'est... même le passé-présent, c'est déjà un peu précurseur de ce que pouvait faire Majora's.
Et là, Majora's Mask, ils avaient encore... ils étaient allés encore plus loin dans la prise de risque. Enfin, là, c'était beaucoup plus une prise de risque, d'ailleurs, Majora's Mask, vu qu'ils partaient... Je pense que dès le début, ils devaient se douter que ça allait pas plaire à tout le monde, quoi. Ce genre de jeu beaucoup plus sombre et très différent des autres Zelda.
Ouais, mais limite tant mieux, parce que moi, ce que je comparais ça tout à l'heure pendant la pause musicale, moi, je le compare comme un film arty, c'est-à-dire que forcément la fanbase est réduite, mais ce jeu est tellement ouf que c'est peut-être mieux qu'il soit un peu réservé aux initiés.
Ah oui, ça en fait un des Zelda les plus intéressants.
Ouais. Voilà.
On va conclure là-dessus, je pense, parce que là, il est déjà très tard. Et, ouais. On peut plus vous arrêter déjà.
Ouais.
C'est ouf, même moi, j'ai pas envie d'arrêter d'en parler, mais c'est vrai que.
Non, mais c'est passionnant.
Il va quand même falloir s'arrêter. Je pense que vous serez des nôtres pour l'émission spéciale Majora's Mask pour la sortie
tellement,
du jeu.
Mais tellement.
Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on peut déjà se donner rendez-vous. Je ne sais plus la date de sortie. Je sais que c'est début 2015, mais j'ai plus. Je ne crois pas qu'il y a
oui.
pas trop
non,
de date.
Non, il n'y a pas de date. Hein, y a pas de date précise,
c'est pas premier trimestre 2015.
Oui, c'est printemps.
Ouais, c'est ça. Mais printemps 2015. Premier trimestre 2015, c'est vague.
Ouais, enfin ça fait dans pas longtemps du coup.
Ouais.
Enfin voilà, donc je pense que de toute façon, voilà, j'espère que Oscar viendra parce que c'est aussi un très grand passionné de Majora's Mask, c'est un de ses jeux préférés. Donc j'espère qu'il viendra pour en parler avec nous. En attendant, nous on se dit à dans 2 semaines. Je sais quel sera le sujet. Je vais être très honnête, je pense que ce sera Super Smash Bros. Voilà, c'est une petite idée comme ça, mais à mon avis, on va parler
ouais,
de Super Smash Bros. Dans 2 semaines.
Il y a plus énormément d'autres sorties là.
Il y a Watch Dogs, Wii U et il y a Sonic Boom.
Sérieusement ouais. Attends, je viens de l'apprendre là. Watch Dogs Wii U, il va sortir.
Ah bah il sort vendredi.
Là,
ouais. Tu peux même le précommander. Et si tu l'achètes à la Fnac, t'as un DLC exclusif.
Génial.
Ouais. C'est pas beau ça?
Ah ouais, je suis à fond là.
Ah là, franchement, moi je suis tout émoustillé.
Non, par contre, en termes de DLC, vous m'avez bien donné envie avec celui sur Mario Kart 8. Donc, voilà.
Ouais. On est payé, fait par Nintendo. Pour,
c'est ça, c'est ce que
voilà, ça, ça. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent parce que sinon, s'ils ne l'ont pas déjà acheté, ils vont se ruer sur leur carte bleue. Voilà. Bref, moi je vous dis, on vous dit donc à dans 2 semaines. Et ben voilà, à dans 2 semaines. Salut!
Ciao!
Ciao!